Je crois que c'est à moi là. Hello les amis, bonjour. Le débat n'a pas commencé, qu'il a déjà commencé. J'étais en train de m'ambiancer sur cette musique pleine d'énergie que déjà le chat bruissait de débat sur l'actualité, sur les États-Unis. J'ai vu sur la dernière mise à jour de l'iPad aussi. Je vais quand même des débats. Bienvenue dans la matinée Étienne, on se jeudi 18. Septembre 2025, marqué notamment par une mobilisation intersyndicale forte, dont on va parler pas mal ce matin. Bah, comment ça va, vous? Bien. On va lancer le live sur TikTok dans un instant, mais on reste entre nous sur Twitch. Merci Nézaris pour le soutien. Ma matinée n'est pas mienne tant qu'elle n'est pas nôtre. Merci Kirved. Ma matinée n'est pas mienne tant qu'elle n'est pas... C'est très beau. C'est dur à 9h51. Mon cerveau n'est pas tout à fait allumé. J'ai pas trop abusé de caféine ce matin. Mais c'est très beau. Mais je crois que je l'ai. Je l'ai. Salut Vaganuki. Qui nous dit merci d'être là pour m'accompagner dans cette matinée de travail. À ce propos, nouveau rendez-vous à partir de lundi. Cette revue de presse que je vous propose depuis 5 ans sur Twitch, elle arrive en podcast, ça y est, on l'a fait. Une demande constante depuis le début. Oui, t'es bien Twitch, YouTube, mais est-ce que tu peux pas aussi, quand je suis dans les transports, en métro, en voiture, quand je marche, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de l'avoir en podcast? D'ailleurs, je ne vais plus prononcer ce mot que comme ça. Podcast! Comme Harry Potter! Excusez-moi. Hein? C'est, ça pourrait être un donation goal, ça. Voilà. Pendant un an, je prononce le mot podcast. Podcast! Et là, c'est bizarre que c'est pas encore crié dans le chat. Ah, Samuel, mes oreilles. Arrête, ça fait de pop, ça pop, pop. Et arrête de taper sur la table, ça fait des bruits sourds dans mon casque. Potter! Et donc, voilà, ça arrive le podcast sur toutes les plateformes à partir de lundi. Voilà. Donc, je suis misophone, s'il te plaît. Je savais. Arrête de me cracher dessus. Trop bien pour le podcast, je vais pouvoir écouter en rentrant du boulot, t'es meilleur. Voilà, ce sera mis en ligne sur toutes les plateformes de podcast, mesdames et messieurs, tous les jours à partir de 16h. M'a dit la petite équipe sympa qui va s'occuper de ça. Le podcast. Est-ce qu'on lancerait pas d'ailleurs le live sur TikTok? Excusez-moi, je suis très en forme ce matin et pourtant j'ai bu qu'un café au réveil. Tout à l'heure, je me suis levé tard, je me suis levé à 6h30. Une espèce de grasse mat, parce qu'on a fait du... À quoi on a joué hier soir, c'était bien. Warzone. C'est incroyable. Attends, hop, on fait la place pour le chat de nos amis de TikTok qui nous rejoignent. Ici, amis de TikTok, bonjour, vous êtes dans la matinée Étienne. On parle d'actu, on lit les journaux ensemble. Dans la bonne humeur, et le premier qui n'est pas de bonne humeur, je le vire. Je présente. On vient de lancer le live sur Twitch et vous nous rejoignez à présent. On était en train de parler avec les amis de Twitch du fait que cette revue de presse que nous présentons depuis jeudi, nous, parce que c'est un travail commun, de même que cette conquête de l'Elysée en 2027 sera un travail commun. Et donc ce travail collaboratif sur l'actualité, où nous échangeons sur l'actu tous les jours, il est arrivé sur Twitch il y a 5 ans, il est arrivé sur TikTok il y a quelques semaines, il arrive en podcast. Sur toutes les plateformes de podcast. À partir de lundi, tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 16h. Voilà. Podcast pour ceux qui ont oublié, me dit un chasseur sachant. C'est un mot valise à l'origine iPod plus broadcast. Podcast, ça vient de iPod plus broadcast, c'est incroyable. Waouh. Quoi, tu te présentes pour 2027? Vraiment, tu te présentes à la présidentielle ou c'est du troll? Point d'exclamation 2027 dans le chat de Twitch. Et vous avez toutes les infos. Je me suis fait le même tatou que toi, mais sur le poignet. Mais lequel? Parce que j'en ai quatre quand même. J'ai quatre gros dragons, sa mère, sur mon petit corps d'un mètre dix. Est-ce à dire que tu es tellement grand par rapport à moi que mes grands tatouages sur moi, du coup, font la taille de ton poignet? C'est chaud, ça, en vrai. Mais lequel t'as fait? Lequel dragon tu as fait? Je n'ai pas lu le message d'Irzil, qui est un peu trop gentil pour moi. Et je vais les chevilles qui vont enfler. Or, je suis un petit peu à l'étroit dans ces chaussures. Donc, Irzil, merci pour ton message. Je vais pas lire, il est trop gentil. Le mot podcast a été inventé, me dit Diesel, par hasard par le journaliste britannique Ben Hammersley en 2004. J'étais à peine né. Hein. Il utilise la contraction des mots iPod et broadcast, diffusion en anglais, dans un de ses articles de The Guardian, excellent quotidien britannique, si je puis me permettre. L'année suivante, Apple s'approprie le terme et l'intègre dans iTunes 4.9. Quelqu'un du côté de TikTok me demande si je bats Elidia Avalo. Écoute, sur le papier, non. Sur le papier, je ne bats pas Elidia Avalo. Mais, la dernière fois qu'on a joué ensemble, à Berlin, au VCT, voilà, sur la scène internationale, compétitive Valorant, eh bien, je n'étais pas très très loin de son nombre de kills dans la team. Je dis ça, je dis rien. Bon anniversaire à Noé qui faisait 18 ans aujourd'hui avec nous. Quelqu'un vient de taper point d'exclamation OF dans le chat Twitch pour tomber sur mon compte OnlyFans. Tu as le lien. Je serai sans doute le premier candidat à la présidentielle dans ce pays à avoir un compte OnlyFans. Et j'en suis fier. Hein. Le corps, ça n'est pas sale. Le corps, ça n'est pas sale. Nous sommes tous des humains, je dirais même des mammifères. Voilà, il ne faut pas avoir honte de notre corps. Personnellement, j'en tire une source de revenus non négligeable. Sur TikTok, vous n'avez pas le raccourci, mais sur Twitch, point d'exclamation OF, et vous avez accès à mes photos, à mes vidéos. Je ne parlerai pas d'érotisme, je parlerai d'élégance très française, chic, légèrement déshabillée. De charme, de sensualité. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Tu penses animer une émission consacrée à Twitch, streamer à télévision? Pas trop, je la libère. Le temps qu'ils comprennent tout ça là-bas, je serais déjà à la retraite. Monsieur, faut dormir, vous êtes en live H24, me dit Wanda. C'est vrai qu'on a fait 9 heures de stream hier. On a fait la revue de presse le matin. On a fait un joli stream fin de journée, 18h sur World of Warships. Il y a World of Tanks qui arrive bientôt. J'ai adoré la découverte de ce jeu-là et tous ces gros bateaux qui se tirent dessus avec leurs gros canons-là. Un échange lunaire avec le CM qui m'accompagnait, trop gentil, sur les gros canons. Et c'était drôle. Et puis on a fait... donc ça, c'est sur Twitch uniquement. Hein, la revue de presse, c'est sur TikTok et Twitch. Mais le gaming, c'est vraiment que sur Twitch. Et puis, donc ça, c'était 18h. Et puis à 20... quelle heure, je sais plus, 22h, je sais plus, on a lancé un petit stream Warzone. Bien Warzone. Où sont les fiches jaunes, Samuel? Alors, le Y, on ne se définit pas par son travail. Je ne suis pas une fiche jaune, je ne suis pas... Vous êtes plus que votre travail. Chacun d'entre vous, hein, je ne sais pas, si tu es en grande section de maternelle, par exemple, tu es plus qu'un élève de grande section de maternelle. Si tu es comptable, tu es plus que comptable. Tu es notamment ce travail, mais tu es plein d'autres choses. Et je ne me définis pas par une fiche jaune. Hein? Je ne suis pas une fiche jaune. Je suis plein de choses. Je rigole, MDR. Elle était assez drôle. Elle était assez drôle, en vrai. Elle était assez drôle, le Y. Le chat est littéralement en PLS. Des deux côtés, il y a des gens qui ont du mal, au moment où nous parlons, il y a des gens qui ont du mal à respirer, par ta faute. Parce que le rire les étreint. Et leur corps est secoué de spasmes, de pure rigolade. Donc fais attention à tes vannes, parce que là tu joues avec la santé des gens. Hein. Moi je te le dis. Hein. Le rire m'habite, exactement, hein, chasseur sachant. Est-ce que tu réponds à des questions sur l'actualité? Oui, alors je vous lis des journaux, je vous lis des articles que j'ai choisis. Mais je peux répondre à vos questions sur l'actualité quand elles m'inspirent, bien sûr. Déjà, se définir par le travail est très réducteur. Kefran, Reapers, carrément. Carrément. On est bien plus que ça, évidemment. Quoi. Voilà, Hubel Navarre, j'ai des douleurs au ventre. Eh oui, le rire, je suis en asphyxie, me dit Alastair. Eh oui, tu vois, attention le Y avec ses vannes. Hein. Ne joue pas comme ça avec la santé des gens. Hein. Fais du stand-up, va là où les gens savent ce à quoi ils vont s'attendre. Hein. Tu veux un spectacle de stand-up, d'humoriste, t'es prêt à te gondoler. Hein, tu as préparé ton corps, ton esprit. Là, on est sur une chaîne sérieuse où ça parle de l'actualité. On va parler de la grève aujourd'hui, du mouvement de grève aujourd'hui, de la mobilisation intersyndicale. On va parler du Proche-Orient. On est sur une chaîne sérieuse. Hein. Donc là, là, tu nous prends par surprise, tu vois. Smou vient d'écrire. C'est qui ce vieux chômeur? Je ne sais pas de qui tu parles, Smou. Si c'est de moi ou de quelqu'un d'autre. Dans le doute, on te met en pause. Pas longtemps, hein. Pas longtemps. On ne te supprime pas de cet espace, de cette communauté. On va juste t'empêcher d'écrire pendant une journée. À demain. Faut mettre des règles, hein, sinon on finit plus. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas école. Et donc, je préchote. Parce que ça, à mon avis, c'est fin de maternelle max. Max, max, max. Il voulait juste un peu d'attention. Ah ben, il en aura demain à l'école, quand les cours vont reprendre. Écoute, quand il va retrouver sa maîtresse et ses petits camarades, hein, moi, je peux pas. Je fais pas garderie aujourd'hui. Hein. On est pas mal, celle-là. Je fais pas garderie. Et puis, c'est quoi cette discrimination sur les demandeurs d'emploi, par ailleurs? Est-ce que tes enfants ont école aujourd'hui? Non, ils sont à la maison. Voilà, je préfère, c'est qui ce jeune actif plein de vitalité et dynamisme? Voilà, ça, c'est beaucoup plus... Dem the haut, tu as ça de passer VIP, toi, par contre, tu vois? Je ne t'avais jamais vu en live, mais tu es un tueur. Kefran, c'est faux, mais c'est gentil, merci à toi. Tu as un Discord? On a un Discord, pour l'exclamation Discord. Ils doivent être trop heureux, les enfants? Oui. Ah oui, ils sont heureux, oui. Quand hier, ils sont à la fin du mercredi, où il n'y avait pas école, ils m'ont annoncé qu'il n'y avait pas école le lendemain, parce qu'il allait être compliqué pour les enseignants, notamment, de rejoindre l'école. Pour les raisons de transport public, bien sûr. Je peux vous dire qu'il y avait du sourire. Il y avait du sourire, il y avait des yeux lumineux. Hein. Hein. La double journée off, mercredi, jeudi, elle fait du bien. La semaine de 3 jours, on en rêve, les enfants l'ont eu. Hein. Merci Kefran. Salut Hélène. Quel aurait été ton métier de rêve si tu n'avais pas été journaliste? Alors moi, mon métier de rêve, ma vocation, TZ, c'était vraiment... Enfant, je voulais devenir ça, quoi. Donc, ta question est intéressante, mais elle est compliquée. Écrivain, j'aurais rêvé, mais il faut savoir écrire, il faut avoir une plume, il faut avoir du souffle, un talent, quelque chose à dire, une façon singulière de le dire, et je n'ai pas tout ça. Ah oui, Rockstar, j'aurais bien aimé. Idole des jeunes. Ouais. Tu vois. Genre, je sais pas, Elvis Presley, mais sans la fin. Sans la fin, là où il commence à aller pas fort. À cause notamment de son manager. Hein. Il y a un film récent qui l'a très bien montré. Kurt Cobain, mais là aussi, sans la fin. Voilà. Ça. Alors Sarah et Couscous me demande: coucou, qu'est-ce que tu penses de la suspension de l'émission de Jimmy Kimmel sur ABC cette nuit? Alors c'est intéressant parce que dans le chat on en a parlé tout à l'heure de l'autre côté sur Twitch. Et merci Tahulette pour le 14e mois, le 18e mois pardon. Merci Babylonia pour le 23e mois. Merci Arthur Ezio pour le 28e mois. Merci JK pour le 18e mois. As-tu déjà pensé à intégrer des journaux étrangers francophones à ta revue de presse? Tu as la réponse JK en tapant dans le chat Twitch pour l'exclamation RDP, revue de presse. Où j'explique pourquoi j'ai choisi les journaux français, quotidiens nationaux, alors que j'aurais pu tout à fait ajouter les journaux régionaux, les journaux magazines, la presse qui est sur Internet. Voilà. Et en fait, ce n'est pas parce que ces autres presses ne m'intéressent pas, c'est parce que c'est un manque de temps pour les consommer et pour les lire au quotidien. Donc j'ai fait ce choix. Mais c'est une très bonne question. Merci Tibet, merci Nizaris. Et merci Reaper, et merci Sven, Reaper Sandveller. Et donc, oui, Jimmy Kimmel, j'ai vu une question tout à l'heure. Je n'avais pas prévu d'en parler parce que je n'ai pas vu d'article ce matin dans les journaux que j'ai lus, les PDF, hein, les formats des journaux qui vont à l'imprimerie, qui partent à l'imprimerie le soir et qu'on lit le matin. Mais j'ai trouvé des articles sur Internet, notamment dans Le Monde, et peut-être que on pourra peut-être lire cet article si vous voulez. C'est, ah, parce que c'est, voilà, c'était. Ah, voilà. Camille me dit c'est arrivé cette nuit pour nous, aux États-Unis, donc d'où l'absence de cette info dans ces journaux papier / PDF qui partent au bouclage, comme on dit dans notre jargon, en soirée et qui arrivent le matin dans nos kiosques. Mais peut-être qu'il y aura les articles demain et il y en a déjà sur les sites internet de ces mêmes journaux, puisque je vous ai trouvé un article dans Le Monde. Ah, sur Le Parisien, c'est dispo. Oui, oui, sur le site internet du Parisien, c'est ce que je viens de dire. Mais pas dans Le Parisien PDF, le journal papier, quoi. On va, du coup, on va aller voir ça. Je sais pas si on commence. Je sais pas si on commence par ça. Les PDF, tu les as parce que tu es abonné à chacun des journaux ou tu utilises une appli spécifique? Je suis abonné à chacun de ces journaux. Ouais. Une des choses que je fais le matin, c'est que je dis que l'une des sources d'information les plus intéressantes en France, qui moi me semble la source la plus intéressante pour s'informer, c'est la presse écrite. Voilà. Pour plein de raisons. Que je développe régulièrement, et notamment cette presse quotidienne nationale. Et de dire ça, et en même temps de ne pas l'acheter, de ne pas dépenser mes sous pour lire ces journaux, ça n'aurait pas de sens, si tu veux. Donc je suis abonné à chacun de ces journaux, parce que ces journaux ne sont pas assez lus, et ils sont dans une précarité économique assez forte. Ils sont, pour dire les choses, assez bancales financièrement tous. Et donc, c'est un petit peu embêtant, quoi. Donc, oui, le minima, c'est que je les achète. Donc, je suis abonné à chacun. Tu prépares le sommaire le matin avant d'arriver. Ouais, je me lève en général vers 5-6 heures. Je lis ces journaux, c'est mon petit kiff du matin pendant 2-3 heures. Je choisis les actus qui me semblent importantes, les articles qui me semblent bien faits. Et puis après, je vous les présente et on en parle. Mais après, je suis évidemment ouvert à d'autres infos, quoi. Merci, Touffle Ouf, le retour du détail. Tu dors combien d'heures par nuit pour être levé à 5 heures? À partir de 3 heures, je suis allumable. 4 heures, je commence à être bien. 5 heures, je suis vraiment à mon prime. Et après, c'est la grasse mat. Là, il y a eu 4 heures, je suis bien. Merci, Old Linux. Tu penses quoi des gens aux États-Unis qui se font renvoyer pour leurs propos sur Kirk? Eh ben, ni connu, je pense qu'on va en parler dans un instant. Alors, pas viré, je crois, puisque tu parles de Jimmy Kimmel, mais suspendu, on va en parler. En fait, vous avez raison. J'avais pas prévu d'en parler parce que je n'ai pas l'article ce matin dans les journaux papier dont je vous parlais, mais il y a des articles sur les sites d'info de ces mêmes médias, de ces mêmes journaux, et donc on va en parler. Vous avez raison. Là, par exemple, c'est une info que j'avais pas prévu d'évoquer, mais on va, comme vous m'en parlez, on va en parler. On va même commencer par ça. T'es solide sur tes appuis pour relativiser les trolls? Oui, de plus en plus. Hein, vous êtes nombreux, et statistiquement, il y a toujours des fous du bus. Hein. Vous êtes déjà 400 sur TikTok, vous êtes un peu plus de 2000 sur Twitch. Vous imaginez bien que la lumière n'est pas allumée à tous les étages. Quoi. Statistiquement, il y a forcément des fadas, quoi. Donc oui, comme ça fait 5 ans que je fais ça, je me suis habitué à ça. Alors de temps en temps, je vais en chercher un, parce que ça nous fait rire, on en rigole, et puis il arrive que parfois c'est énervant et je pique une saine colère parce qu'il faut que ça sorte. Voilà, et ça nous fait rire aussi. Le petit vieux qui devient tout rouge, là, en vrai, c'est rigolo. Donc, mais globalement, je gère ça bien, quoi. Hier, t'es monté dans les tours. Ben oui, parce que hier, c'était en plus quelqu'un que je connaissais qui a dit une dinguerie sur le Proche-Orient. Sauf qu'en fait, c'était une blague. Il a voulu faire une blague. À quel moment on fait des blagues sur Gaza, quoi? À quel moment on fait des blagues sur les Palestiniens? Donc, tu vois, et en plus, quelqu'un que je connaissais, je lui dis, mais pas toi, mais pas toi. Mais pas toi. Et en fait, c'était une blague. Bref, là, la blague, quoi. Donc, on s'en est parlé après, d'ailleurs, en s'excusant tous les deux. Pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Voilà. Mais globalement, je le gère de mieux en mieux, en fait. Et oui, les blagues à l'écrit passent mal, parce que on n'entend pas le ton. On n'entend pas le ton quand il y a une blague, quand il y a du second degré. On n'entend pas la voix. Tu quoque fili. Demdo. Et il n'y avait pas le petit capa, le petit visage qui rigole là, dans le chat Twitch, par exemple. Je ne sais pas sur TikTok si vous avez ça. Ça nous indique le ton, ça nous indique qu'il y a de la vanne. Et ça évite aux streamers âgés de péter un câble, quoi. Ah oui, le best-of n'est pas à jour. Oh, bah, vous savez quoi? Alors, en général, avant de commencer la revue de presse, on fait des. Je fais un sommaire. Je fais un bonjour. Pardon, le sommaire s'arrête dans un instant. Je fais un bonjour qui dure une demi-heure. Là, il a duré 25 minutes. Et Alexandra vient de me dire que nous n'avions pas encore regardé le best-of, le dernier best-of hebdo de cette chaîne préparée par Mathieu. Bah, et si on commençait par ça? Oui, on va tester le sommaire écrit aujourd'hui. Ouais, c'est prévu. Ouais. Hein? Merci, Beard Balek. Pour le raid, c'est adorable. Merci Lily Renard pour le Prime. Merci Babylonia. Merci encore Tahulette. On fait ça? Allez, ça va nous mettre de bonne humeur. Alors, YouTube. Déjà là. YouTube, on va taper Best of Hebdo. Ouais, qui est déjà dans les tendances, hein, manifestement. Voilà. Je vous mets ça. Ok, ignorer. Ok, c'est parti. Alors. Tac. Laissez-moi avoir quelque chose. Ah, c'est bon. Ok, là vous n'avez rien, c'est normal. Alors la mise en page sur TikTok n'est pas optimisée, hein, vous verrez peut-être pas forcément tout ça horizontal comme il faut, mais voilà, c'est mieux que rien. Est-ce que vous êtes prêts pour le best-of? Ça dure pas longtemps, hein. Ça dure quoi? Ça dure... Oh, à 8 minutes 24? Bon, je sais pas si on va le regarder en entier, mais je ne l'ai pas vu. C'est la surprise. C'est une semaine de stream condensée par Mathieu qui s'occupe de ma chaîne YouTube. Voilà. Et je ne l'ai pas regardé. Parce qu'avant, je validais, mais maintenant, je fais tellement confiance que... Voilà. Donc, il peut y avoir des dingueries, potentiellement, il peut y avoir des dingueries. Toutes les réactions que vous verrez dans un instant sont des réactions non préparées. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de folie. J'espère que je ne monte pas mes fesses, par exemple. C'est jamais. T'es prêt? Let's go.
Cette arme, tu l'aimes bien ou pas?
Ouais, j'aime bien.
Tu veux essayer le sniper? C'est sympa le sniper,
sniper
ouais.
C'est quoi?
Vas-y, mais prends-le.
Je le prends, je le prends.
Il n'y a qu'une manière, c'est
Ok.
d'essayer.
Let's go.
Explose-le en l'air, là. Oui. Oui!
Bien
Yes!
joué, poulet!
Je joue au sniper, moi.
Et pour voir ce qui se passe derrière le. Bon, ça, c'était le dernier sample du dimanche soir. Où je reçois tous les dimanches soirs un invité. Qui me parle de son jeu vidéo préféré, c'est en replay sur Twitch, sur YouTube, c'est gratuit et c'était Show H1 pour Warzone. Je me suis régalé.
Nation Goal, scam ou pas scam?
Certains scam, hein. Moi je ne veux pas dénoncer.
Joycat avec nous, on est à 352 000 euros, à 400 000 euros, on se met à poil!
Je ne veux pas.
Ah, vous l'avez pas TikTok? Ah, attends, je vous l'ai peut-être pas mis. Ah, je vous ai pas mis la scène, attendez. Bougez pas. Là, c'est parce que j'ai pas activé un truc. Attendez, je vous le remets, bande de beaux gosses. Alors. Voilà. Excusez-moi. Let's go. Voilà. Là, vous allez la voir.
Balancer des noms, mais parfois il y a des promesses et derrière ça se scame, hein, comme des vrais politiques.
À 400 000 euros, je cours tout nu dans
bon.
The Event.
C'est les pires, ceux-là. Alors ça, mark my words. Moi, je dis non. Hein. Ça, c'est non. Hein. Ça, c'est intolérable. Ça, c'est intolérable. En quatre
oui.
mots, c'est non. Je vais vous dire que ça me débecte. Pardon. Ça me débecte. Des feuilles de vigne. Je sais pas pourquoi je choisis feuilles de vigne en vrai. Comme ça, j'ai envie. Bim, elle est là. Après, on va régler sur l'indice. Informaticien, baby.
Ah, l'indice.
Et on cache. L'informaticien, incroyable, il est fou, mais comment fait-il tout ça?
Top, utilisé dans un souci
incroyable.
D'essence.
Un socle?
Non.
Incroyable.
Top de décence pour préserver la pudeur de ceux qui admiraient une œuvre montrant un corps dénudé. Ornement végétal.
Une feuille
précisée
de vigne.
Non.
Ah oui. Incroyable. Ah oui.
Quand tu caches l'indice, mais que la réponse est feuille de vigne, en fait, c'est pire. Au moment où je veux cacher l'indice, je donne la bonne réponse. Je m'en souvenais, mais non, j'ai aucune. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait hier.
Tu le découpes. Bien joué, ça.
Yes.
Dans les airs, dans les airs. Canne-le.
J'adore ce jeu.
Bien joué.
J'adore ce jeu.
Lui, tu le butes aussi. Bien joué, ça. 11 kills, Sam. 11 kills. Passe sur les corps que t'as tués pour ramasser les plaques. Ton collègue, il vient de mourir par la droite. Fais attention. Il est juste à droite, le mec. Ok, il est dans l'escalier. Cours. Cours, il rate dans l'escalier en haut à gauche.
Il est fort, il est fort.
Hein ? Ouais. Bien joué, ça. Nice. Un autre qui a sauté. En bas à gauche.
Il est fort, il est fort. Derrière il voit toi. Tout, il voit tout.
Il va faire le même chemin que toi. Gauche, 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 gauche. Nice. Oh. Bien joué, ça. C'est la musique à Gotha, c'est pour ça.
Parce que tout le monde sait bien que si la cagnotte d'un million d'euros n'a pas été atteinte sur ma chaîne, on a fait un peu plus de 400 000, c'est exprès. Vous pouviez le faire le 1 million. Mais vous saviez que 2025, c'était trop tôt pour 2027. Vous saviez que 2025, c'était trop tôt pour lancer une campagne présidentielle express sur les plateformes numériques pour nous emmener, nous emporter à l'Elysée ensemble. Vous l'avez fait exprès. Et je sais que vous réservez vos dons pour le The Event 2026.
C'est vrai, ça.
J'espère la chance d'être invité.
Ce serait incroyable.
Pour 2027. Et il y a un monde où mon premier donation goal du The Event 2026, si j'ai la chance d'être invité, parce que de temps en temps, il faut savoir laisser sa place aussi, sera à 1 euro. Ben, ce ne sera pas 1 euro, j'allume ma cam. Ce sera 1 euro, donation goal 2026. On se présente à la candidature pour 2027. Il raconte n'importe quoi, lui.
Atteignable.
Là, dehors, c'est sorti. Frappe de napalm. Tu vas te faire cramer si tu restes dehors.
Bam.
Bon. Bien joué, ça. Fais gaffe. Tu
vas retirer.
Et non.
C'est bon, tu peux ressortir. Finis ton kill. Finis ton kill. Vise.
Elle est où?
À droite.
En bas de l'échelle, là-dessus, là.
Vas-y, putain. Nice. Lui, tu le butes aussi. Tiens-lui dans les couilles. C'est le point faible, ça, à chaque fois. Bien joué.
En médecine, quel adjectif qualifie une maladie touchant une personne produisant des anticorps? Marc.
Auto-immune?
Oui,
auto-immune.
Qui est léger contre ses propres antigènes. Oui.
Vous savez, la série que le docteur. Il y a un rapport parfois particulier avec les gens, là, où ça parle de maladies. Oui, Dr House. Toujours demandé ce que c'était une maladie auto-immune. Bah voilà, on sait maintenant.
Il y a une série télévisée où on entendait sans arrêt parler de maladies auto-immunes, vous vous rappelez,
docteur?
Alors c'est le problème, c'est qu'en fait le streamer qui réacte cette émission est la même personne qui anime l'émission. Donc souvent il dit les mêmes choses. Mais ouais, ça va arriver.
Il radote, quoi.
Parce qu'en fait on a la même mémoire tous les deux et les mêmes références. Voilà, désolé.
Je vais trip souvent inception.
Faire ça. Ça radote. Alors, je suis la même personne.
Samuel Etienne, ce matin sur Twitch et TikTok, réacte. Samuel Etienne sur Twitch qui réacte. Samuel Etienne sur Question pour un champion. Et si Mathieu met cette séquence-là dans le prochain best-of, on aura Samuel sur Twitch et TikTok qui réacte Samuel Etienne sur Twitch et TikTok qui réacte Samuel Etienne qui réacte Samuel Etienne qui présente. Et ainsi de suite. Et on fera ça toutes les semaines. Inception 4. Ça recycle. Un même contenu. Tu fais 30 lives.
Que celui-ci. Avec plus de cheveux.
Depuis 96, le patrimoine total des 500 plus grandes fortunes professionnelles a été multiplié par 14. Leur part dans le patrimoine financier total des ménages, pour les 500 plus riches en France, est passée de 2 à 18%. La part du patrimoine des 500 plus riches en France est passée de 96 aujourd'hui, de 2% à 18%. Les ultra riches, on parle pas des riches là.
Les 500 familles les plus riches de France.
Les ultra riches n'ont jamais été aussi ultra riches. Les chiffres sont dingues, hein. Tandis que dans le même temps, le patrimoine moyen des 10% des Français les plus pauvres, lui, a chuté de 54%.
À droite dans les tentes.
On y va ?
Vers le fond des tentes. Bien sûr qu'on y va. À droite, encore à droite, extrême droite,
Jean-Marie.
Au secours !
Quoi ? Histoire, on
Mais il est fou, Mathieu. Quoi ? Mais c'est du jeu vidéo ? Mais faut arrêter. Oh ! Mais il est fou ! Mais il est fou!
Vers le fond des dents, bien sûr qu'on y va. À droite, encore à droite, extrême droite, Jean-Marie.
Au secours!
Histoire, on est en 1974. Comment se terminait le slogan de l'Agence pour les économies d'énergie disant en France, on n'a pas.
Vous l'avez? L'agence qui disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées? Non, l'agence, le nom de l'agence. Alors, très important, toujours se rappeler du début des questions. On ne cherche pas le slogan. Quel est le nom de l'agence? Ah, c'est mignon, vous faites la faute des candidats qui écoutent pas bien. Le nom de l'agence. Et certains me disent la phrase, vous avez pas bien écouté. Je cherche pas le slogan, je cherche le nom de l'agence qui a inventé ce slogan. Ah ah! Non, l'ADEME, c'est plus récent, je pense. Je vois CEA, je vois NPE.
Mais on a des idées.
Oui, il a complété? Oui, c'est ça que je voulais.
Hein, quoi? Je me suis Samuel Ed. Je me suis trompé. C'est moi qui ai mal écouté la question. Je me suis fait Samuel Ed.
Comment se terminait le
la honte. Comment se terminer? J'ai mal écouté. Faut que je prenne ma retraite. Faut que je dorme. J'en peux plus. Putain, ça va passer sur TikTok direct. Putain, c'est sûr. Ah, oh, putain, j'aurais dû dormir. Je raconte n'importe quoi. De toute façon, je leur avais dit à Fremantle que c'était une mauvaise idée, de toute façon. Donc, vous aviez raison, les gars. Ouais, ça sent la fin de carrière.
C'est quoi cette pub? Oh.
Mieux.
Ah. Oh, ah. Je l'aime ce jeu.
J'ai.
C'est vous qui avez fait ça?
Là, on va faire un.
Ah non, c'est pas moi, c'est Chouachin. C'est Yann, je comprenais pas.
J'ai pas le temps de rien.
Je trouvais que je jouais bien. Je trouvais que je jouais bien. Ah ouais, c'est incroyable ce qu'il va faire là.
Qu'on lui mette ça.
J'ai adoré.
Non,
ça.
Non, c'est Yann.
C'était beau le move là. Oh, tu le chasses, tu le
regarde,
chasses.
Regarde, la poursuite en parachute. C'est un fou.
Putain, oh, c'est la poursuite sur le.
Le mec est littéralement
sur le barrage.
Sur le barrage. Warzone.
Toutes les semaines, de tous les mois, de toutes les années, depuis toujours, c'est le week-end qu'on fait nos pires audiences. Allez voir les stats, allez voir les chiffres. Depuis la création de ce jeu, c'est le samedi et le dimanche qu'on fait nos pires audiences. Bon, je commente. Et puis dimanche, il y a du rugby, ouais. Et là, Laurent me disait, bon, samedi, on a été mauvais comme tous les samedis. Et dimanche, il y avait du sport. Bon, ça veut dire que le week-end prochain sera un peu plus fort. Mais le monde où on nous dit dans un an, ah, question pour un champion le week-end, c'est un peu décevant les audiences le week-end. Ouais, comme depuis 37 ans en fait. Merde. Donc du coup, on est désolé, on est déçu parce qu'en fait.
Ah oui, la voix, c'est parce que je sortais du G-Event. J'ai beuglé pendant 3 jours, c'est pour ça que j'ai la voix cassée. Cassée là, ouais. Tu vois. Et en fait, c'est pour ça que j'ai cette voix un peu. By White. Qui je sais, vous fait un peu dresser les poils, mais c'est parce que j'ai gueulé. C'est pour les assos.
On voulait vraiment que l'émission se poursuive. Et là, ça va pas être possible dans ces conditions. Je préchote. Oh, des toilettes.
La voix de Nagui, ça va pas, non? Nagui, il parle pas comme ça.
Nagui, il parle comme ça.
Ça va pas, non?
Ouais, bonjour, bienvenue, là.
Ça a rien à voir. C'est pas la même, quoi.
C'est dégueu. Oh, les devs de ce jeu sont complètement fous. Hein. Ici, on essaye aussi de pas rester juste sur l'émotion et essayer de comprendre ce qui se passe et de trouver les solutions. Loulou Lepou nous explique que l'ASE, qui est l'aide sociale à l'enfance, est un des secteurs qui est le plus touché par les coupes budgétaires et ça fend le cœur. C'est un sujet extrêmement compliqué. C'est très compliqué d'accompagner ces enfants qui sont cassés, qui vivent des choses extrêmement dures, de pas être avec leur famille parce que la famille les a abandonnés ou n'est pas capable de les élever. On va pas tout confondre. Et c'est très compliqué de réparer ça. Voilà, je vois un témoignage de Fanfreluche dans le chat sur le sujet. Ceux qui connaissent le mieux le sujet, c'est ceux qui ont vécu ça, comme Nico. Et Fanfreluche nous dit: Sam, j'ai été placé à l'âge de mes 3 ans et j'en suis sorti à 21 ans. Ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Je suis aujourd'hui infirmier libéral. Je n'ai jamais connu mon père. Forcément, c'est un gros manque au quotidien. C'est souvent difficile, mais je refais.
Ouais, mais non.
On avait pas dit qu'on arrêtait de pleurer après le G-Event, là. En plus, j'ai pas beaucoup dormi.
Il a mis ça, Mathieu, best-of.
Le pire, c'est que c'est une belle histoire. J'arrive même pas à lire ton message. Les gens n'imaginent pas à quel point avoir des parents, et en plus des parents aimants, c'est une chance inouïe en fait, que plein de gens n'ont pas. Et en fait, on se rend pas compte quand on l'a. C'est pour ça qu'il faut entendre ce genre de message. Pardon, Fanfreluche. Donc allez, on reprend un petit peu son sérieux. Comme le dit JDG, on est des bons hommes.
Ressaisis-toi, bordel.
Sam, j'étais passé à l'âge de mes 3 ans et j'en suis sorti à 21 ans. Ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Je suis aujourd'hui infirmier libéral. GG à toi. Je n'ai jamais connu mon père. Forcément, c'est un gros manque au quotidien. C'est souvent difficile, mais je remercie le centre du Sarté dans le Gers qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis fier de mon placement et fier du travail que l'ensemble des éducateurs ont fait pour moi. Voilà, parfois ça se passe bien. Mais c'est très difficile pour les jeunes qui vivent ça, quoi.
Oh putain, Mathieu, j'avais pas.
Comptes-tu te présenter à la présidentielle?
Oui, mais au dernier moment, en 2027, campagne express. Il faut choquer. On le fera ensemble. On parlera plus tard.
Sound familiar, everyone's.
Alors, Mathieu, c'est donc le garçon qui s'occupe de ma chaîne YouTube. Il est incroyable et donc c'est lui qui fait mes best-of. Et au début, bon, moi, je les regardais pour les valider, quoi. Mais en fait, je les regarde plus maintenant parce que c'est super. Mais du coup, je savais pas ce qu'il avait mis. Donc, j'ai vu qu'il avait été assez inspiré par mon live Warzone. Ça, c'est cool. Et parce que ce jeu est cool. Après, j'avais pas vu qu'il avait mis cette séquence. À la fin, quoi, qui était une belle séquence où on parle d'un sujet dont on parle assez régulièrement sur cette chaîne, parce que c'est un vrai sujet en France, l'aide sociale à l'enfance, ou comment on s'occupe mal en France des enfants qui à un moment vont n'ont pas de famille ou vont être retirés à leur famille pour plein de raisons, notamment de violence. Et on sait que c'est très compliqué après pour ces enfants de s'inscrire dans un chemin de vie, quoi. Donc voilà, donc on en parle souvent, enfin on en parle dès qu'on trouve des articles sur le sujet. Et là c'est Nico le streamer qui en ce moment marche entre Montpellier et Paris avec Bailan. Et c'est Nico qui a eu cette enfance là. Donc c'est assez. Et c'est, il en avait parlé aux Yévan, quoi. Voilà. Bon, les amis, voilà pour le. Pour le best-of. Voilà. Merci Marvel BZH. Merci Guy Suizy. Guy, je sais pas comment prononcer. Merci en tout cas. Merci Jeannot. Merci Armel Rose. Merci Artcad pour ce gentil message. Et ce sub. Merci Bizil pour le soutien. Est-ce qu'on passe maintenant au sommaire? Donc, je vous rappelle. Le sommaire, c'est super simple, c'est j'ai lu les articles pour vous, mais pour ceux qui n'ont pas 2-3 heures à me consacrer, eh bien je vous donne l'essentiel de l'actualité, et puis après, eh ben, après on lit ces articles et on en parle. Sachant que je vous abandonnais vers 12h30 ce matin, donc on a 2 bonnes heures ensemble. Tu vas jouer aujourd'hui? Ouais, on fera un peu de Valo, je pense, ce soir. On essaie toujours de passer de Silver, hein. On n'a jamais été aussi près. Hein. Merci Snitnil. Alors Coco, qu'écris-tu Coco? Tiens, c'est TIENS, un bobo gauchiste qui fait des leçons qui a été par le contribuable toute sa vie. Et il manque pas qu'un S, hein, je pense qu'il manque des mots. Bienvenue Coco, bonne matinée à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Le sommaire. Alors je vais vous montrer un truc alors qui n'est que sur Twitch. Voilà, parce que sur TikTok on manque de place. C'est ça. C'est pour ça, c'est les journaux que je vais lire. Maintenant, on a un petit sommaire. Donc là, c'est le sommaire d'hier qu'on a testé. Et on a un petit sommaire comme ça. Là, par exemple, on va mettre sommaire. Toc. Comme ça, quand vous arrivez sur le live, vous savez où on en est. Voilà. Et ça évitera, quand on a parlé comme tous les jours d'une heure de Gaza, parce qu'on en parle assez souvent. Ça évitera aux gens qui arrivent sur le live, en tout cas sur Twitch, sur TikTok, je peux pas vous mettre ce sommaire, c'est un peu compliqué, d'arriver 5 minutes après un échange d'une heure sur Gaza et de pop dans le chat en disant « tu parles jamais de Gaza ». Voilà, on n'en peut plus de ces gens-là, hein, casser les couilles en vrai. Donc voilà, c'est notamment pour cette raison qu'on a fait un sommaire. Donc, c'est une idée de la commu, quoi. Donc là, on va actualiser, sujet du jour, sommaire. Bah non, d'ailleurs, vous savez quoi, on va l'écrire. On va le faire en même temps. Attends, regardez, on va garder la flèche. Voilà. Là, par exemple, c'est sommaire. Voilà. Et la flèche, c'est là où on en est. Je trouve que c'est un peu sommaire comme présentation. Cette blague est très bonne. Cette blague est très bonne. Voilà. Pas mal, là. Sommaire. Ok ? C'est pas mal, ça, en vrai. Voilà. Donc. Allons-y, de quoi je vous parle ce matin? Sommaire. On va beaucoup parler de la grève. Voilà. Avec cette une du monde, donc journée de mobilisation intersyndicale, quelle mobilisation, quelle perturbation aussi dans les transports, les raisons de cette mobilisation, donc on peut déjà, voilà, on va appeler ça grève du 18 septembre. Grève au pluriel d'ailleurs. Ok ? Donc ça, on va commencer par ça. Article dans Le Monde qui nous a donné un petit peu les infos. Alors sur TikTok, j'ai pas la place plume d'échange, je sais pas où le mettre. Déjà, le chat, vous le voyez pas parce qu'il est en blanc sur fond blanc, faut que je travaille là-dessus. Mais franchement, TikTok, désolé les gars, il n'y a pas de place. Voilà. Vous n'aurez pas le petit truc, mais vous aurez les infos. Grève contre l'austérité sur tous les fronts. Voilà, donc déjà, on a quelques infos sur le pourquoi. Voilà. La flèche, non, on est dans le sommaire ultra white chicken, concentre-toi. On est dans le sommaire, concentre-toi. Donc la flèche, elle est sur sommaire. Okay, et puis après, je vous lirai des éditos. Les éditos, c'est des articles où un journaliste prend la plume pour donner son avis. Alors, ça n'est que son avis, et ça se trouve, il est complètement claqué au sol, et peut-être qu'il est super intéressant, mais c'est son avis. Donc, il nous dit, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et donc on a un édito de Paul Quignot qui parle d'injustice. Il dit qu'il y a de l'injustice en France, l'injustice fiscale notamment, et donc Libération nous en parle. Le Figaro a un autre regard sur cette journée de mobilisation. Hein. Au bord de la rupture, avec une machine poétique qui tourne à vide, tous les rouages sont cassés. Figaro qui est un petit peu alarmiste, qui dit rien ne va plus. Catastrophe ce qui se passe en France actuellement. Et donc on dira l'édito de Jim Jarassé dans le Figaro. Et puis on a La Croix aussi qui consacre un dossier assez important là-dessus et qui va au-delà de cette journée du 18 septembre. Nous parle du malaise en France, du malaise social. La mobilisation syndicale contre l'austérité, aujourd'hui donc, rejoint, estime le journal La Croix, l'inquiétude d'une partie de la population concernant le devenir du modèle social français. Est-ce qu'on va... Attendez, là il manque une page, mon chouchou. Il manque la page 2. Qu'on va y chercher tout de suite. Ah ben oui, monsieur Étienne. Il manque la page 2, là. Eh oui, elle est là. Donc, je vous la rajoute. Eh oui, ça... il manque une page. Est-ce qu'on va pouvoir sauver notre modèle social à la française? Donc l'article, il sera là. Peut-on sauver le modèle social à la française? Moins de cotisants, moins de salariés, plus de retraités, notamment, c'est l'une des données de cette équation. Donc on va se pencher là-dessus. La Croix qui va un petit peu plus loin que cette journée. Voilà. Ensuite, le deuxième sujet, c'est Gaza. Hein? C'est un sujet dont on parle quasiment tous les jours, d'accord, de la Palestine, de Gaza, d'Israël, depuis des mois, depuis des années. Donc on va encore en parler ce matin avec l'offensive de l'armée israélienne pour, disons les choses, détruire Gazaville, la capitale, hein, de la bande de Gaza. Voilà. Donc je vous lirai cet article dans Le Monde. Je vous lirai aussi... cette réflexion des Européens de sanctionner économiquement Israël pour faire pression sur le gouvernement Netanyahou pour qu'il cesse ce qu'il est en train de faire. Voilà. Mais Libération nous parle d'un vœu pieux, c'est-à-dire qu'il risque de ne pas se réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les Européens soient d'accord. Hein. Entre eux, il y a des pays comme la France qui sont pour des sanctions contre Israël, il y a des pays comme l'Allemagne et l'Italie qui ne sont pas favorables. Donc on lira cet article dans Libé. La politique. Et les tractations actuelles de M. Sébastien Lecornu, qui est le nouveau Premier ministre, pour constituer un gouvernement et pour s'assurer qu'il va avoir éventuellement une majorité pour gouverner et pour faire voter des réformes et aussi le prochain budget. Voilà. Donc, il espère passer un deal avec les socialistes. Les socialistes, eux, espèrent faire pression sur ce gouvernement pour qu'il modifie sa politique, notamment fiscale, où on en est, ben, pas très loin manifestement. Sébastien Lecornu reste flou et la gauche sur sa faim. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Libération essaye de nous donner quelques infos là-dessus. Donc, j'appelle ça Lecornu et le PS. Et puis... Comment je vais appeler ça? C'est une réflexion dans Le Monde, sur la coalition. On a un système politique qui est bloqué aujourd'hui. Le fait majoritaire a disparu, c'est-à-dire quand un parti avait la majorité, une majorité à l'Assemblée qui pouvait soutenir un exécutif. En gros, vous avez un président qui était élu, anciennement pour 7 ans le septennat, pour 5 ans désormais, et puis pouvait compter sur une majorité au Parlement, notamment à l'Assemblée, pour voter ses réformes, hein, ce que j'appelle le fait majoritaire. Ça a explosé, puisque... les Français votent différemment. Il n'y a plus deux grands blocs gauche-droite comme avant. Et vous avez plusieurs blocs, centre-centre-droit, gauche, avec plusieurs composantes, mais ce qui a toujours été, droite républicaine traditionnelle, extrême-droite. Et il n'y a plus de majorité pour soutenir l'exécutif. Donc il y a une nouvelle façon de faire de la politique en France à inventer. Puis il y a plein de gens qui disent, bah, regardons ce qui se passe dans les régimes parlementaires, notamment européens, en Allemagne ou dans d'autres pays, où ce fait est... non majoritaire existe depuis longtemps, hein, notamment en raison des modes de scrutin de proportionnel dans les régimes parlementaires. Et donc, il faut que maintenant les partis arrivent à s'entendre dans des coalitions. Sauf qu'en fait, on n'est pas du tout habitué à ça. Hein. En France, négocier, discuter, faire des coalitions. Et donc, on a une réflexion dans Le Monde sur ce que ça implique. Je vais appeler ça gouverner avec une coalition. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai mis de côté. Sauf qu'on va rajouter un sujet, puisque vous me l'avez parlé, et on va commencer avec ça si vous voulez, sur Jimmy Kimmel. Hein, donc, voilà. USA. Jimmy Kimmel suspendu, donc c'est un animateur hein, qui a été suspendu pour les propos qu'il a tenus sur l'assassinat de Charlie Kirk. Avec Trump qui s'en réjouit, qui s'en félicite, qui dit c'est formidable, le mec est nul. À quel moment un chef d'État se permet de juger comme ça publiquement le travail d'un animateur ou d'un journaliste, ça c'est enfin, voilà, aux États-Unis c'est avec Trump c'est courant quoi. Liberté d'expression, tout ça exactement. Mario, tu as compris. Jimmy Kimmel suspendu. Voilà. Et c'est vous qui m'avez soufflé cette info et on va en parler. On va commencer par ça. Voilà. Et Defecator nous rappelle notre ami qui lutte contre les fake news sur Twitch et sur YouTube, et cela fait suite déjà à l'éviction en juillet dernier de Stephen Colbert par CBS pour un autre late show. Alors officiellement, je crois que c'était pour des raisons d'audience, mais alors peut-être il y a peut-être d'autres trucs derrière. Donc voilà pour le sommaire. Ça c'est nouveau. Alors désolé sur TikTok, c'est compliqué de vous l'afficher hein, par manque de place sur l'écran, mais désormais sur Twitch, eh bien on pourra faire ça, ce qui nous permettra aussi de permettra aux gens qui nous rejoignent de savoir où on en est. Voilà. Par exemple, là, la petite flèche, je vais la mettre devant USA, Jimmy Kimmel suspendu, parce qu'on va commencer par ça. C'est bien ou pas? C'est pas mal, non? Hein? Ça valide? Voilà. C'est pas mal. C'est nouveau. Bon, voilà. Cette revue de presse existe depuis 5 ans, mais on essaie de l'améliorer, bien sûr. Merci Bardino, merci Xylophane, merci Jebi, merci Rimac, merci Wabibi, merci Delphine. Allons-y. C'est quoi cette histoire? L'animateur Jimmy Kimmel, on est aux États-Unis, privé d'antenne, par ABC, c'est la chaîne où il travaille, après des propos sur l'assassinat de Charlie Kirk. Charlie Kirk, influenceur, très proche des idées de Trump, qui a donc été assassiné, vous savez. Voilà. Qualifié par certains de représentant de l'extrême droite américaine. Donc l'humoriste Jimmy Kimmel avait accusé la droite américaine, justement, lundi, c'est rapide, hein, dans son émission, d'exploiter politiquement l'assassinat de l'influenceur pro-Trump. Merci Dopch. Ah oui, il n'y a plus le sommaire. Ah oui, du coup, oui, c'est dans le... Ah mais t'as raison. Ah, il faut que je le mette là aussi, le sommaire. Ah mais sur fond blanc, vous ne le verrez pas. Ouais, c'est nul ça. Attendez. Ah oui. Ah oui, t'as raison. Ah oui. Et on va faire ça. Attends, copier. Où est-ce que je vais vous... Mais où est-ce que je vous l'installe? Ça reviendra après. Oui, 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 mais je peux vous mettre sur Google aussi. Je vais essayer de vous mettre aussi sur la scène Google, c'est pas complètement con. Hop, coller. Voilà. On peut le mettre. Attends, reste là, toi. Hop. On peut le mettre là. Tu vois? Voilà. Voilà. C'est joli, non? Vous validez? Ça valide? Ça valide. On y retourne. C'est une suspension, écrit Le Monde. Je suis sûr que les journaux en parleront également demain matin. Qui relance le débat sur la liberté d'expression à la télévision américaine. Ça n'est pas rien. Hein, dans quelle démocratie sommes-nous aux États-Unis actuellement? Quelle est la liberté réelle des médias? Comment Trump considère cette question de la liberté des médias? C'est une suspension qui relance le débat sur la liberté d'expression à la télévision américaine. L'humoriste Jimmy Kimmel, animateur d'un late show très populaire aux États-Unis, va être privé d'antenne, donc il est suspendu, après des propos accusant la droite américaine d'exploiter politiquement l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk. Bon, la même chose arrive en France. Un humoriste ou un journaliste critiquerait la droite, par exemple, de faire de la récupération politique sur ce genre de choses. Bah, il n'arriverait rien. Enfin, je veux dire... aujourd'hui en tout cas je l'espère. Après, imaginons que cela se passe sur certains médias aujourd'hui très contrôlés par leurs propriétaires, qui n'accepterait pas ce genre de prise de position, peut-être qu'il pourrait être suspendu. Hein. L'émission Jimmy Kimmel Live sera suspendue pour une durée indéterminée, a déclaré l'agence France Presse, un porte-parole d'ABC. Décision, alors moi c'est ça que je trouve complètement fou. Bon, manifestement, ce média décide de suspendre cet animateur. Ok ? Mais ce qui est fou, c'est que Trump, un président, ça doit être garder une forme de, comment dire, de réserve par rapport aux décisions d'un média privé, quoi. Une décision immédiatement saluée par Trump, le président américain, n'appréciait pas les critiques régulières de l'animateur de 57 ans et s'est réjoui d'une excellente nouvelle pour l'Amérique sur son réseau Truth Social. C'est comme si en France, le chef de l'État, bon, le président Macron en ce moment, se félicitait de la suspension d'un humoriste ou d'un animateur sur un média. L'animateur de 57 ans, un des visages les plus célèbres de la télévision américaine, outre son émission qui offre un regard humoristique sur l'actualité 5 soirs par semaine, il a également été 4 fois maître de cérémonie pour les Oscars. Bon, ouais. J'avoue, je ne connais pas bien, moi, mais manifestement, c'est une vedette. Alors, qu'a-t-il dit Jimmy Kimmel pour déclencher la colère, l'ire de sa direction et manifestement de Trump? Lundi soir, Jimmy Kimmel a évoqué le récent meurtre de Charlie Kirk, un influenceur, là, tué d'une balle dans le cou la semaine dernière par un homme de 22 ans. Les États-Unis se déchirent sur le profil du suspect, Tyler Robinson, jeune homme élevé par des parents républicains, donc c'est le camp de Trump, et qu'une large partie de la droite désigne comme un tueur d'extrême gauche, car il avait dénoncé à ses proches la haine véhiculée, selon lui, par Charlie Kirk, et utilisé des munitions gravées d'inscriptions à tonalité antifasciste. Bon, après, il y a beaucoup de débats sur la couleur politique ou l'étiquette politique qu'on veut donner à ce meurtrier. Nous avons atteint de nouveaux sommets ce week-end avec la clique MAGA, Make America Great Again, qui s'efforce désespérément de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme quelqu'un d'autre qu'un des leurs et qui fait tout son possible pour en tirer un avantage politique, a estimé l'animateur dans son émission. Il y a un compte qui s'appelle Permis Express qui vient faire sa pub dans le chat. Waouh, c'est hyper choquant, en vrai. Bye bye. C'est fou, ça. Entre les accusations... Ok, bon, ça, ok. C'est... Alors, le monde rappelle qu'après le meurtre de Charlie Kirk, Trump a immédiatement dénoncé la responsabilité de la gauche radicale dans ce meurtre, conduisant certains à craindre une attaque plus large sur les discours d'opposition. Voilà. Trump, encore lui, ça c'est assez surréaliste quand même, a déclaré « Félicitations à ABC d'avoir eu enfin le courage de faire ce qui devait être fait. Kimmel n'a aucun talent. » Ça, c'est du Trump tout craché, quoi. A repris Trump en appelant dans la foulée la chaîne NBC à priver d'antenne deux autres humoristes célèbres, Jimmy Fallon et Seth Meyers. C'est ça qui est choquant dans cette histoire, c'est que t'as quand même un président en exercice, qui est censé être le président de tous les Américains, qui en fait s'autorise à dire à des médias ben lui dégage, lui c'est ok, lui il reste, lui j'en veux pas, il a aucun talent. Le mec il est encore toujours dans son émission de télé-réalité. Trump il a été animateur d'une émission de télé-réalité. Comment ça s'appelait ? You're Fired. Comment c'était quoi ? Tu sais, comment c'était ce truc-là, déjà ? Vous vous rappelez ? The Apprentice.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Exactement. Et en fait, on a l'impression qu'il est toujours dans sa télé-réalité, quoi. Sauf qu'il est devenu président des États-Unis quand même depuis. Alors, comment se justifie ABC de cette décision ? Qui peut rappeler par certains aspects, vous avez raison, ce qui a pu se passer à France Inter aussi, hein, notamment autour de Guillaume Meurice, j'espère que je n'écorche pas son nom. La différence avec cette affaire, c'est qu'un média comme France Inter, par exemple, à un moment a dégagé un humoriste en estimant que certains de ses propos ne pouvaient pas être tolérés sur son antenne. Vous avez raison d'en parler, sur les deux chats, vous en parlez, vous avez complètement raison. Quelle est la grosse différence entre ces deux histoires ? c'est dans, c'est hein, et pas que humoriste, tu as raison. Il y avait un humoriste sur France 5 aussi, ouais. Quelle est la différence de cette histoire, c'est que le président de la République, oui, il y avait Sébastien Thoen sur Canal+, exactement. Donc il n'y a pas que France Inter, France 5, tu as raison. On peut se rappeler de Stéphane Guillon, on peut rappeler les guignols de l'info. Mais quelle est la différence? C'est que là, on n'a pas un président qui intervient dans ce débat. Voilà. On peut dire à ABC que sa décision est totalement conne et que c'est une atteinte à la liberté d'expression et qu'il se couche devant le pouvoir. On peut accuser ABC de ça. Mais, sauf erreur de ma part, je ne crois pas que le président de la République actuelle en France, Emmanuel Macron, et se soit félicité et demandé ses décisions et se soit réjoui sur les réseaux de cette décision. Hein, c'est l'une des deux grandes différences dans cette affaire, quoi. Voilà. Donc, comment se justifie ABC d'ailleurs ? Dans un communiqué, le patron du groupe a dénoncé des commentaires offensants et indélicats à un moment critique de notre discours politique national. Selon lui, continuer à offrir à M. Kimmel une plateforme était tout simplement pas dans l'intérêt public. Brenda Carr de la FCC a alors remercié Nexstar d'avoir pris la bonne décision. Jimmy Kimmel n'a pas encore réagi, mais Hollywood commence déjà à s'indigner. Ben Stiller, l'acteur par exemple, a écrit « Ça n'est pas juste ». Acheter et contrôler les plateformes médiatiques, licencier les commentateurs, annuler les émissions, tout cela est coordonné, tout cela est dangereux, a fustigé le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, en estimant que le parti républicain, le parti de Trump, donc, ne croit pas en la liberté d'expression. Et vous le rappeliez aussi au début de cet échange, avant Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, et notre ami Defecator nous en parlait, présentateur du Late Show, a appris en juillet dernier, c'est pas très vieux, que son émission emblématique serait annulée par CBS à partir de 2026. Trois jours avant d'apprendre son futur licenciement, Colbert avait critiqué CBS pour avoir réglé à l'amiable son procès avec Trump dans une affaire où celui-ci reprochait un montage trompeur. Accusation fragile, selon des experts, mais CBS avait quand même accepté de verser 16 millions de dollars au président. Il est bien Trump, hein ? Tout va bien lui, hein ? Il se régale. Hein ? Hein, entre sa crypto-monnaie, etc. Un jour, on fera un gros dossier sur comment Trump s'enrichit d'une façon vertigineuse depuis qu'il est président. On pourrait estimer que quand tu deviens président d'un pays et que tu es businessman, que tu es un homme d'affaires, un milliardaire, bah, tu mets tes activités entre parenthèses pour qu'il n'y ait pas de soupçons de mélange des genres et que tu ne profites pas de ton statut de président des États-Unis pour faire fructifier tes affaires. Alors... Lui, il se régale, quoi. Ah, c'est un truc qu'il faudra traiter un jour ici, quoi. Là, il a pris 16 millions d'une chaîne de télé comme ça qui craignait les poursuites de Trump, quoi. C'est une dinguerie. Un gros pot de vin, donc avait dit Stephen Colbert, visant à obtenir l'autorisation de la FCC pour le rachat par la société de production Skydance de Paramount, conglomérat dont fait partie CBS. C'est une accusation super grave, quoi. Donc Colbert a été viré, quoi. Depuis son retour au pouvoir, Trump multiplie les attaques contre la presse en restreignant les accès à la Maison Blanche, ou avec des procédures réclamant des sommes astronomiques. Hein. Mardi, le milliardaire républicain a annoncé poursuivre cette fois le New York Times en diffamation en exigeant 15 milliards de dommages et intérêts. Waouh ! Pistelu vient d'écrire dans le chat sur Twitch, qu'est-ce qui différencie Trump d'un régime mafieux ? À un moment, on va se poser la question, hein. Milliard, ouais, c'est écrit milliard. J'ose espérer que c'est une faute de frappe. Milliard. Moi, franchement, je vais devenir président, hein. Je vais faire comme lui, hein. Ça va être incroyable. C'est fou. C'est bien ça, ouais. Voilà. Donc, bon, bah, bravo au Monde qui a écrit cet article assez vite, hein, qu'il est pas encore dans la version... dans la version papier, PDF, qu'on va peut-être trouver en début d'après-midi dans Le Monde, et demain aussi dans les journaux. Donc là, Le Monde avec AFP, donc ça veut dire que l'agence France Presse a fait une dépêche sans doute assez complète là-dessus, quoi. Voilà. Alors, je vous lis un petit peu sur le sujet et on enchaîne avec le deuxième. Ah bah là aussi, il faut qu'on mette le sommaire, attends. Là aussi, il faut qu'on mette le sommaire. Bougez pas, les amis de Twitch. Collez. Paf. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Écoutez, c'est presque trop beau. Où est-ce que je vous mets ça? Là. C'est presque trop beau. Là, là, là. Voilà. Jimmy Kimmel. T'es pas assez bad boy pour devenir président? Bon, ok, t'as déjà les tatouages, c'est un début. T'inquiète, t'inquiète. On n'est pas mieux lotis en France. Ça, c'est un débat, Sarah. Sarah Couscous. J'aime beaucoup ton pseudo, déjà. On n'est pas mieux lotis en France. Alors, on n'est pas dans un pays idéal, ni dans un régime politique idéal, ni dans une démocratie idéale. Et t'as bien raison de le dire. Mais si on veut comparer strictement les mêmes choses, réjouissons-nous a priori que pour l'instant, on n'a pas encore eu de président français qui fait ça. Un président français qui prend parti pour demander à des chaînes de télévision qu'un animateur soit retiré de l'antenne. Voilà. Je n'ai pas de souvenir récent à ce sujet. D'un président français qui profiterait de son arrivée au pouvoir pour s'enrichir par millions, par milliards. Je n'ai pas d'exemple. Alors, je vois Anne-Sophie de la Pix pour interrogation. Est-ce qu'à un moment, l'Élysée aurait fait pression sur France Télévisions pour qu'Anne-Sophie Lapix soit retirée de l'antenne? Cela s'est dit, voilà. Cela s'est dit. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de politiques qui voulaient plus de Lapix parce qu'elle faisait des interviews un petit peu pushy. Mais en tout cas, le président Macron n'a pas, comme le président américain, officiellement fait des déclarations en ce sens. On n'est pas tout à fait sur la même histoire, quoi. Merci, Mansk. Non, que... Attendez, hein, je vais vous dire le fond de ma pensée. Que des politiques, que des gens au pouvoir en France aient fait pression sur des médias pour influencer leur ligne éditoriale, éventuellement même pour écarter des gens, je pense que c'est ils le font, notamment en France, depuis la nuit des temps. Faire pression officieusement. Mais le dire officiellement, de façon, comment dire, sans se cacher, avec une certaine forme de violence et de façon répétée, comme Trump aux États-Unis qui lui a envie de décréter qui a le droit de parler ou pas, on est sur un autre cran quand même. On est sur un autre stade, tu vois. On y arrivera peut-être un jour d'ailleurs, hein. Je vous lis. Salut Aster, bienvenue. Je vous lis. Pistelli rappelle que Rachid Dati, la ministre de la Culture, a menacé Patrick Cohen. C'est Patrick, oui, tu as raison. C'est la pente qui mène au même endroit que les États-Unis. Bon, Rachid Dati n'est pas encore présidente de la République. Mais je comprends ce que tu veux dire. Merci Green Project. Dans quel pays aimerais-tu éduquer tes enfants, me dit Père Espera. J'avoue, j'aime bien vivre en France, moi. Je sais qu'en France, il est de bon ton de dire qu'on vit dans le pire pays du monde et que c'est un enfer et que c'est tellement mieux ailleurs. Les gens qui voyagent un peu et qui vivent à l'étranger, les Français, ne nous disent pas tout à fait la même chose. Sparrow Smurf dit qui n'a pas été menacé par Dati, elle attaque tous les journalistes en diffamation et perd tous ses procès. De rien, Père Espera. Je vous lis. Voilà, Jean nous dit dans le chat, Twitch, 12-13 ans que j'ai quitté la France, notre beau pays est le meilleur que j'ai pu voir et j'ai traversé le monde. Tu refuses d'évoquer le cas d'Ati, pourtant il y aurait matière, je crois que j'en ai parlé déjà 3-4 fois depuis tout à l'heure, je pense que tu es un petit peu en retard ou que tu viens d'allumer ce live. Ou les deux. Merci Wonjoy. Merci Lit in Film. Merci Dupsch. Alors ça, Wonjoy, le chat contrôle, ça, j'ai commencé à voir des choses et j'en parlerai bientôt, je pense. Robin dans le chat, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis, je suis bien content d'être rentré en France. Alors on va en parler puisqu'on va parler des grèves aussi. Bon, les amis, quelque chose me dit que dans les journaux de demain, il y aura à nouveau des articles sur Jimmy Kimmel. Donc on en reviendra. Et peut-être des articles qui iront plus loin et qui poseront la question de où on en est-on de la liberté d'expression et la liberté journalistique et la liberté des médias et la liberté des humoristes aux États-Unis. Je veux bien croire qu'en France, tout n'est pas parfait, loin de là, et on est aussi là pour en parler. Mais aux States, il se passe quand même des choses assez étranges sous la présidence de Monsieur Donald Trump. Je pense qu'on en reparlera. Bon. Maintenant, on va parler de la grève. Hop. Donc, petite flèche. On passe des États-Unis aux grèves du 18 septembre. Incroyable. Incroyable. Alors, on va commencer avec Le Monde. Donc c'est aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous sont à la maison télétravail aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes dans les transports. Levez la main ceux qui ont modifié un peu leur quotidien. Rien à voir Samuel, est-ce que tu mets jamais un fond de musique derrière? On s'est posé la question de Londres de mettre un peu de musique derrière cette revue de presse, tu vois, un peu de chill, un peu de détente. Et puis à un moment on s'est dit, quand on parle de certains sujets, de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe à Gaza, des licenciements, des plans sociaux, de l'insécurité, de, je sais pas, du trafic de drogue, des violences faites aux enfants, des discriminations. On s'est dit que c'était pas forcément la meilleure idée. Donc on va rester plutôt sur du silence sobre. Voilà. Les enjeux de la mobilisation du 18 septembre, donc c'est la une du Monde. Les organisations syndicales appellent à manifester aujourd'hui, hein, vous le savez, dans tous les secteurs, contre les mesures d'austérité annoncées par François Bayrou. Voilà. Alors, il n'est plus au gouvernement, ça vous a pas échappé, il est parti. Mais ça préchote, ça met la pression sur Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre. Les syndicats dénoncent le choix, quel est le point de mobilisation des syndicats, de faire payer encore une fois, avec les mesures qu'avait souhaité Bayrou, les travailleuses, les travailleurs, les précaires, les retraités, les malades. Le Monde fait le point sur la mobilisation qui s'annonce forte, on verra demain matin, on fera un point sur la mobilisation. Les noms de manifestants, le taux de grévistes. Plus de 250 manifestations ont été déclarées en France pour jeudi. Les médias s'accordent à dire que cette mobilisation devrait être importante aujourd'hui. Le souvenir de la surdité du gouvernement face au mouvement de contestation de la réforme des retraites en 2023 reste vivace chez les syndicalistes, qui sont assez remontés. L'impression d'être pris pour cible grandit en revanche chez les chefs d'entreprise, qui se disent injustement mis en cause. Alors, lisons un petit peu d'abord les faits, qu'est-ce qui était attendu aujourd'hui, et puis après on regardera le regard de certains médias un peu éditorialisés sur le sujet avec Libération, Le Figaro et La Croix. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Grève contre l'austérité sur tous les fronts, école, je suis sûr que dans le chat il y a des parents qui ont les enfants aujourd'hui, transport, éboueur, la journée de mobilisation d'aujourd'hui, 18 septembre, s'annonce suivi. Plus de 250 manifestations ont été déclarées en France pour aujourd'hui en réponse à cet appel intersyndical interprofessionnel à la mobilisation contre les mesures budgétaires annoncées cet été par François Bayrou et que son successeur, Sébastien Lecornu, n'a pas encore écarté. Elles sont unanimement jugées brutales par les organisations syndicales qui dénoncent le choix, je vous le disais à l'instant, de faire payer encore une fois, les travailleurs, les travailleuses, les précaires, les retraités, les malades. dans les écoles primaires publiques, où les enseignants sont dans l'obligation de se déclarer grévistes 48 heures à l'avance. Récemment, on s'est penché sur le droit de grève en France et on s'est rendu compte, on s'est rappelé qu'il n'y a pas de préavis de grève dans le privé. Dans le privé, tu peux, t'arrives au boulot, tu peux te mettre en grève, tu n'as pas de préavis à donner. Si ton patron te le demande, tu peux expliquer pourquoi tu es en grève, mais tu n'as pas de préavis à donner dans le privé. En revanche, dans le public, il y a un préavis. Dans les écoles primaires publiques, où les enseignants sont dans l'obligation de se déclarer grévistes 48 heures à l'avance, le SNUIP FSU, qui est le premier syndicat de la profession, prévoit un tiers d'enseignants en grève aujourd'hui. Chiffre élevé, c'est beaucoup. Hein. Qui porterait cette mobilisation ? Oh putain, vous n'avez pas l'article sur TikTok. Alors, engueulez-moi quand j'oublie de le mettre. Excusez-moi. J'avais pas mis l'article sur TikTok. Ami TikTok, pardon. N'hésitez pas à m'engueuler quand j'oublie des trucs comme ça. Vous savez, l'âge, tout ça. Hein. Alors, je vous lis l'article, certes, mais c'est bien de le voir aussi. Histoire que vous puissiez bien vérifier que je passe pas des choses importantes. Hein. Donc, mobilisation attendue importante chez les enseignants du public. À Paris, où la mobilisation est traditionnellement plus élevée, le syndicat annonce 45% de grévistes, même, c'est beaucoup, hein, et au moins 90 écoles fermées. Voilà. Donc, mobilisation attendue, forte. C'est pas mal ça. C'est pas mal ce qu'a fait Holy Knox. Il a écrit un commentaire avec le sommaire. Pas mal ça. Et on peut l'épingler, bah oui. Mais est-ce que je peux pas le faire moi ? Attends. Alors, je vais l'épingler, mais c'est bien Audley ça. Est-ce que moi je peux pas faire un tech un aussi ? Hop. Ah, ça épingle qu'une minute ! Ah, c'est nul ! Ça épingle qu'une minute ? Épingler le commentaire. Voilà. Là, c'est mon message. Peut-être que ça va rester épinglé. Bon, on va voir. Dans les transports maintenant, très important, 90% des TGV vont circuler. Ok. Beaucoup plus de perturbations sur les autres types de trains. 50% des intercités seulement vont circuler. 3 TER sur 5 avec des disparités régionales. Le directeur commercial de SNCF Réseau anticipe de possibles actes de sabotage sur les infrastructures. La mobilisation s'annonce forte en Île-de-France. Vous avez un trafic qui est assez perturbé en Île-de-France, sur le Transilien, sur la ligne de métro. Peut-être que certains sont concernés dans le chat. Du côté des routiers, les fédérations de routiers n'avaient pas appelé à se mobiliser le 10 septembre en réponse à l'appel Bloquons tout, vous rappelez. Elles annoncent plusieurs actions tôt ce matin dans des zones industrielles sur des péages, hein, donc peut-être qu'il y a des blocages organisés par des routiers aussi ce matin. Dans les aéroports, un appel à la grève a été déposé à Air France par plusieurs syndicats, voilà, mais les organisations partent en ordre dispersé, donc on verra ce qui se passe. Certaines organisations ont conseillé à leurs adhérents de se mettre en télétravail plutôt que de déposer une journée de grève. Chez les éboueurs du public, le mouvement a pris dès le 10 septembre, voilà. Et pour jeudi, des actions sont prévues également. Le 18 ne sera qu'un début. Dans le privé, alors où je vous le disais, les préavis de grève ne sont pas obligatoires, hein, mais là, il y en a qui ont été déposés, notamment chez Veolia et Nicolin. Du côté des électriciens et des gaziers, idem, voilà, il y a une mobilisation aujourd'hui. Et je vois que du côté des médias publics aussi, les syndicats CGT, CFDT, SNJ et Sud de France Télévisions, tout comme l'intersyndicale de Radio France, ont appelé à rejoindre le mouvement pour protester contre la réforme de l'audiovisuel public voulue par la ministre de la Culture, Rachida Dati, où l'on reparle de Dati. Alors, un mot là-dessus d'ailleurs, parce que... Et moi, je voudrais qu'on ait une pensée émue pour la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui, depuis des mois, essaie d'imposer sa réforme de l'audiovisuel public. Elle n'y arrive pas. Parce que les gouvernements n'arrêtent pas de sauter. Et du coup, le truc est sans arrêt repoussé. Et donc, est-ce qu'on peut à un moment, avoir une pensée un peu émue pour la ministre de la Culture qui ronge son frein, qui est là, qui a sa réforme là dans un tiroir et hop, elle sort du tiroir et elle dit allez on y va, et puis hop le gouvernement saute et hop elle remet dans le tiroir. Et puis il y a un nouveau gouvernement et l'Europe sort sa réforme et elle remet sur le bureau et on y va et le gouvernement il ressaute et ah c'est fou ça. Voilà. Donc il y a des articles ce matin là-dessus sur le fait que on ne sait pas si elle va réussir à appliquer sa réforme. Pourquoi Rachida Dati tient autant à cette réforme de l'audiovisuel, dont il y a eu plusieurs articles là-dessus, dont tout le monde se contrefiche un petit peu en vrai. Il y a la preuve, c'est que c'est pas une priorité pour le Parlement. C'est qu'en fait, elle tient à avoir, voilà, comme le dit voilà, une réforme à son nom. C'est toujours chic quand t'es ministre d'avoir une réforme à ton nom, c'est-à-dire la réforme Dati, etc. Bon, c'est comme un petit grade en plus, quoi. Et comme elle a des ambitions politiques assez fortes, notamment, elle veut devenir quoi ? C'est pas une histoire de melon, ça. Hein. C'est parce qu'elle veut devenir maire de Paris. Elle veut devenir maire de Paris, ce qui est plutôt un joli poste. Elle veut succéder à Anne Hidalgo. Et donc, elle pense que tout ce qui peut un peu asseoir sa légitimité, en tant que politique, comme une réforme à son nom, ça peut être quelque chose. Voilà. Bon, sauf que pour l'instant, sa réforme, elle est pas votée. Sa stature, Bruno, bravo. Très bien, joli. Voilà. Tu as vu l'article de Mediapart sur Hidalgo ? Non. En parlant d'Hidalgo, vous avez parlé de son affaire sur les frais ? Non. Mediapart ? On va la voir. Vous voulez qu'on aille voir ? Je suis abonné à Mediapart. Alors, c'est où ? Ils n'ont pas mis en une ? Rubrique média, il n'y a pas média. Faut que je me connecte. Bougez pas. Connecté. Pro. Let's go. Alors, est-ce que j'ai le. Ok, je suis connecté. Voilà. Alors attends, il y a sur un truc de recherche là. Hidalgo. Salut Zabouren. Enquête, 16 septembre. Moi, c'est très récent ça. Note de frais. Vous l'avez pas là. Je vous le mets. Anne Hidalgo. Toujours fâché avec la transparence. Aïe. Pour la troisième fois depuis 2014, la maire de Paris a refusé de transmettre ses frais de déplacement, de restauration et de représentation. Une association a pu en récupérer une partie devant la justice, mais seulement une partie. Mediapart les a consultés. Donc manifestement, le Mediapart nous explique que malgré le fait que la justice qui a été saisie par des assos, la contrainte à verser ses notes de frais en totalité et pas partiellement, elle n'a jamais respecté ses injonctions judiciaires. Ah! Quelqu'un me parle de 84 000 euros de vêtements. Oui, je vois. Le document en question consulté par Mediapart représente d'abord les frais de représentation de l'Élysée entre 2020 et 2024 pour un total de 84 000 euros. En réponse, le cabinet d'Hidalgo a tenu à rappeler que la maire de Paris incarne la France. notamment à l'étranger. Elle a le droit de représenter la culture française et la haute couture à l'instar de la première dame ou les ministres. Mais il ne s'agit pas là de robes à 10 000 euros, en plus elle les réutilise. Interrogé de nouveau par Mediapart, le cabinet de la mère maintient sa réponse et tacle au passage son opposante principale Rachida Dati, soupçonnée, elle, d'avoir dissimulé des milliers d'euros de bijoux. On en a parlé ici. La maire de Paris n'utilise pas ses frais de représentation pour s'offrir des bijoux et tout est déclaré. Intéressant. Ok. Bon, vous avez l'essentiel de l'article. Je ne vais pas vous le lire en intégralité. Je voulais vous en donner un résumé un petit peu pour que vous sachiez de quoi certains parlent dans le chat. Mais en tout cas, c'est à consulter sur Mediapart. Je pense à condition d'être abonné, par contre. Voilà. Si vous souhaitez qu'on y revienne dans les prochains jours, on se penchera là-dessus. Mais bon, pour résumer, après avoir lu en diagonale cette info, la maire de Paris, manifestement, ne brille pas par la transparence de ses notes de frais, alors que plusieurs associations lui ont demandé de les publier, et elle n'en donne qu'une petite partie. Voilà. Oui, Adrien, je lis les comme sur TikTok aussi. Un message de Félos dans le chat. Je voulais juste te dire que j'ai 16 ans. Je te suis depuis le début de ton aventure sur Twitch et avec d'autres élèves engagés, on vient d'organiser un blocage de notre lycée. Tout au long de la matinée, plein d'autres élèves du lycée nous ont rejoints jusqu'à atteindre environ 300 élèves. Devant le lycée, la police est venue, mais nous ne faisons rien d'illégal en bloquant pacifiquement. Bref, tout ça pour dire que la jeunesse française est là et se bat pour ses droits. Donc, voilà pour les faits. Voilà pour la journée de mobilisation. Aujourd'hui, on a lu l'article du Monde. Pardon, on a fait un petit détour par Anne Hidalgo, puisque quelqu'un m'en parlait dans le chat. On a un peu l'esprit d'escalier. Hein. On parle de Dati. Du coup, on parle d'Hidalgo. Et on revient à ça. Que penser de tout ça? Que penser de cette journée de mobilisation? Que veulent ces organisateurs? Qu'en pense Libé? Qu'en pense Le Figaro? Qu'en pense La Croix? Paul Quignot. Injustice, on est dans Libération. C'est assez rare pour être souligné, les syndicats et la police sont d'accord. Avant même qu'elles se tiennent, la mobilisation pour cette journée de grève et de manifestation sera forte, très forte. Les organisations à l'initiative de cette journée d'action pour dénoncer le projet de budget n'ont pas donné de chiffres, mais elles n'ont pas démenti celui donné par le ministère de l'Intérieur qui prévoit entre, c'est beaucoup, hein, entre 600 000 et 900 000 manifestants dans les rues. Si ce niveau de mobilisation devrait se confirmer, il serait comparable à celui atteint à la fin de la bagarre contre la réforme des retraites, ça n'est pas rien. Pas mal pour un premier rendez-vous 15 jours seulement après la rentrée. Ça signe deux choses selon Libé. Que le mécontentement dans le pays est bien réel et que ses racines remontent à cette fameuse réforme des retraites adoptée par 49.3, toujours pas digérée par de nombreux Français. Merci Biopharm, merci Gynium. Bien sûr que la récente séquence budgétaire et l'incompréhension face au choix de François Bayrou, on nourrit cette grogne. La lassitude aussi face à la valse des premiers ministres, mais les ressorts de ce succès annoncé sont plus profonds. Donc, l'histoire de la réforme des retraites, la séquence budgétaire de Bayrou, la valse des gouvernements, mais Libé nous dit, il y a autre chose, de plus profond. Le chef de l'État et son nouveau premier ministre ne devront pas se méprendre sur le sens qu'ils donneront à cette journée. Ils se tromperaient en se disant qu'il leur suffira de faire le dos rond pendant 24 heures face à une énième manifestation de ce caractère réfractaire spécifiquement français. On aime bien râler, on aime bien gueuler, on aime bien manifester. Dans l'histoire politique et sociale du pays, estime Libération, le sentiment d'injustice occupe une place à part et il est à l'œuvre. C'est intéressant parce que c'est ce que nous disent d'autres médias aussi. Les Français aujourd'hui, en tout cas, une majorité de Français ont un vrai sentiment d'injustice par rapport à la manière dont les affaires publiques sont gérées. Le danger est d'autant plus grand pour Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu que les deux hommes sont en un état de faiblesse politique rarement atteint, ce qui est vrai. Ils ont encore les moyens d'éviter qu'une crise sociale vienne s'ajouter à une crise politique qui flirte avec la crise de régime. Il leur faut juste entendre que les Français savent que la dette n'est pas supportable, qu'ils sont prêts à faire des efforts, mais à une condition que ceux-ci soit justement répartie, ce qui va nous emmener une nouvelle fois ce matin sans doute au débat sur la fiscalité et sur la taxe Zucman dont on parle quasiment quotidiennement depuis des semaines. Voici pour le regard de Paul Quignot. Quel est le regard du Figaro, qui est un autre journal, hein, avec une autre ligne éditoriale, Libération, journal plutôt de gauche, le Figaro plutôt conservateur, édito de Jim Jarassé, qui nous parle de rupture. Merci Chris, merci Dame Steph. Certes, le mois de septembre et ses cortèges de manifestants piétinant un bitume recouvert de feuilles jaunies ont leur place dans l'imaginaire collectif français, mais constatons-le, l'édition 2025 de ce qu'il est convenu d'appeler la chaude rentrée sociale s'annonce particulièrement musclée. Le Figaro et Libération sont d'accord là-dessus. Grosse journée de mobilisation. À chaque semaine, son mouvement, après le 10 septembre et sa mobilisation en demi-teinte d'une jeunesse noyautée par les mélenchonistes, bon, ça c'est le regard du Figaro sur la journée du 10 septembre, et avant la manifestation des agriculteurs le 26, les syndicats appellent donc aujourd'hui à un vaste mouvement de grève. Il se traduira pour les Français par une trilogie tristement banale, donc là on reconnaît la ligne éditoriale de Figaro sur les grèves en disant arrêtez, oui vous avez le droit de manifester, mais arrêtez de bloquer la France, arrêtez de bloquer l'économie, tout ça. Métro et bus à l'arrêt, train qui reste à quai, école fermée sur le terrain, les blindés s'entortent dans la gendarmerie, sont déjà prêts à contenir les assauts des inévitables casseurs qui se mêleront à un mouvement aux allures de grand défouloir. Apex Twin dit « J'ai levé un sourcil et puis je me suis souvenu qu'on était sur le Figaro. » Merci Philomena. Alors, souhaitons ensemble que ce mouvement social aujourd'hui ne soit pas abîmé, entaché, pollué par les casseurs. Si je puis me permettre. Pour quel résultat ? Certainement inversement proportionnel à son ampleur qui s'annonce importante. Ah bon ? D'abord parce que les syndicats, plutôt que de se concentrer sur le réel, le niveau scolaire en chute libre en France, l'hôpital à bout de souffle, les fonctionnaires de police dépassés, se contentent de revendications à forte charge politique comme l'obsessionnelle taxe Zucman. Avec au fond un seul objectif partagé avec les oppositions, affaiblir un pouvoir déjà au bord de la rupture. Le Figaro appelle les syndicats de faire de la politique finalement et de ne pas s'intéresser aux vrais sujets. Bon. Car face à cette mécanique sociale bien huilée, la machine politique tourne à vide. Merci Frandroid Live pour ce très beau raid. Les amis modo, n'hésitez pas à épingler sur Twitch l'excellente chaîne Frandroid Live qui vient de nous raid à l'instant. Car face à cette mécanique sociale bien huilée, la machine politique, elle, tourne à vide, estime le Figaro. Tous ses rouages sont cassés, un président délégitimé, oui, merci Sugar. Un Premier ministre qui joue le énième remake du « En même temps », oui, jusqu'à preuve du contraire, même s'il lui parle de rupture. Déjà contraint de ménager par petites touches les susceptibilités de partis eux-mêmes divisés sur leur stratégie. Une Assemblée nationale au chômage technique, oui, c'est pour partie vrai. Bref, un système au point mort, c'est pas faux, le système politique français est au point mort. Incapable d'installer les conditions d'un dialogue social fécond, et a fortiori d'embarquer les Français dans un nécessaire sursaut contre le péril mortel du surendettement. Combien de temps cette agonie durera-t-elle ? Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec le Figaro, mais je trouve que la fin de l'analyse est plutôt juste. C'est vrai qu'on a un système politique qui est plutôt en pause aujourd'hui, en panne. Et je me permets de donner mon avis là-dessus, qui ne vaut pas grand-chose, c'est juste mon avis. Ce blocage aujourd'hui de notre système politique, c'est pas la faute de la règle du jeu, c'est pas une sixième république, une énième constitution, une énième règle du jeu différente qui changera les choses. Le problème, c'est les acteurs. C'est les acteurs de ce jeu politique qui ne sont pas à la hauteur, qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. On a un président qui a été réélu pour un deuxième mandat, mais qui nous avait pas dit franchement ce qu'il allait faire. On a un président qui, pour son deuxième mandat, ne s'est absolument pas mobilisé pour la campagne des législatives. Alors, enjambant ce scrutin pourtant essentiel, résultat, il s'est retrouvé avec un nombre de députés pour soutenir sa politique beaucoup trop insuffisant. Voilà. Il n'a pas fait campagne. Voilà. La flemme. Ensuite, confronté à ce résultat, il a dissous l'Assemblée pour avoir encore moins de députés. GG. Voilà. Et puis on a des partis des groupes politiques à l'Assemblée qui n'ont pas encore pris conscience que ben voilà le fait majoritaire est terminé, que en tout cas pour un bon moment aucun de ces partis, les socialistes, les écologistes, LFI, la droite républicaine, RN, aucun de ces partis n'aura à court terme une majorité comme à l'ancienne en France pour soutenir un gouvernement, et que il faut passer à autre chose, et l'autre chose c'est la concertation, la conciliation. Et on va en parler à la fin de ce stream, d'ailleurs, gouverner avec une coalition. Donc aucun, finalement, de ces acteurs politiques n'est à la hauteur de cette crise politique, alors que des solutions, il y en a peut-être, mais qui sont à inventer. Et Le Figaro a raison sur le constat, mais Le Figaro ne va pas assez loin, parce qu'il ne montre, il ne désigne pas les responsables. Et moi, les responsables, je vous le dis, ce n'est pas les Français, hein, ce n'est pas le vote des Français. Les responsables, ce sont les acteurs politiques que nous avons... désignés à l'Assemblée ou à l'Élysée et qui ne sont pas à la hauteur de cette nouvelle donne à inventer dans notre pays. Voilà. Donc, espérons qu'ils y arrivent. Sinon, je le ferai avec vous en 2027. Merci, Père Fufu. Merci pour ton message. Voilà pour le regard du Figaro. Puis alors maintenant, il y a un gros dossier dans La Croix que je trouve assez intéressant. Malaise social. On est toujours... on est toujours dans ce sujet grève du 18 septembre. La mobilisation syndicale contre l'austérité, ce jeudi, rejoint l'inquiétude d'une partie de la population concernant le devenir du modèle social français. Bon, ça, c'est une vraie inquiétude dans notre pays. On a un modèle social dont, globalement, on est satisfait. Alors, évidemment, on râle tout le temps. Hein. Mais par rapport à d'autres pays, notre système de protection sociale, santé, retraite, est quand même assez fou. Hein. Mais il est menacé. Il est menacé... notamment parce qu'on a du mal à le financer, pour une raison toute simple, c'est que la pyramide des âges fait qu'en France, on a moins d'actifs et de salariés qu'à une époque, et des retraités beaucoup plus nombreux, notamment, dans l'équation, il y a un truc qui ne fonctionne plus. Donc il y a des inquiétudes. Lisons le dossier de La Croix là-dessus, avec une page 2 que j'ai zappée, qui est à la fin, qui est là, qui est ici. Voici la question posée à La Croix. Par La Croix. Peut-on sauver le modèle social à la française ? Les syndicats ont donc appelé à manifester, blablabla, blablabla. Mobilisation qui témoigne de l'inquiétude d'une partie de la population concernant le devenir de notre modèle social. Contesté par certains, soutenu par d'autres, ce modèle divise aujourd'hui les représentants politiques comme l'opinion publique. C'est non. Aussi parce qu'on taxe pas les riches, nous dit Zaya. On en parle tous les jours. De la fiscalité. Remise en cause du droit du travail. Énième réforme de l'assurance chômage. Gel des prestations sociales et des salaires des agents publics. Désindexation des pensions de retraite. Doublement des franchises médicales. Ça, c'est tout ce que souhaitait Bayrou pour faire les économies, pour réduire la dette, l'endettement de la France. Dans leur appel à la mobilisation pour aujourd'hui, les syndicats s'insurgeaient contre le musée des horreurs sociales que promettait l'ancien Premier ministre Bayrou. Mais même si ce dernier a quitté Matignon, pas question pour autant de désarmer face à Le Cornu, son successeur, rien ne dit qu'il ne reprendra pas toute partie de ce qu'avait préparé Bayrou, met en garde la CFTC. Il ne faut pas que ce soit toujours au monde du travail qu'on demande de faire un effort, disent ses partenaires de l'intersyndicale. Car en toile de fond de la mobilisation d'aujourd'hui, c'est bien l'inquiétude sur l'avenir du modèle social français, menacé aux yeux de beaucoup de Français et de Françaises qui pointent. La sécurité sociale a été créée dans un monde jeune pour permettre aux personnes âgées de passer la dernière partie de leur vie dans des conditions dignes. Et cela, elle a réussi, rappelle Julien Damon, qui est professeur à Sciences Po. Hop, je reviens à ma page 2 qui est ici. Mais elle n'a pas été paramétrée pour les... ce que j'évoquais à l'instant, la pyramide des âges, les déséquilibres démographiques dus au progrès de l'espérance de vie, ce qui est une bonne chose, mais qui a des conséquences, et la chute préoccupante de la natalité. Bon, bah, on fait beaucoup moins d'enfants en France aujourd'hui que hier. Alors, bon, ça, il n'y a aucun jugement à faire là-dessus, les Français font ce qu'ils veulent, mais ça pose des questions de financement, à moyen terme en tout cas, de notre système de protection sociale. Le nombre de cotisants, le nombre de salariés, le nombre de gens qui en profitent, vous le savez. Outre le vieillissement de la population, la crise sanitaire a aussi joué. Ainsi, les milliards du Ségur de la santé, mis sur la table pour rétablir le système hospitalier, ont pesé sur les comptes, sans que des mesures d'économie compensent ces surcoûts ou que des recettes soient affectées à due concurrence, retardant ainsi les perspectives de retour à l'équilibre. Au printemps, la Cour des comptes mettait en cause les allègements généraux de cotisations sociales, dont le montant a progressé plus rapidement que les recettes de la sécurité sociale. Cette politique de l'offre, qui est une politique macroniste, ne fonctionne pas et mène au financement public et la sécurité sociale dans le rouge, estime Force ouvrière. Voilà, donc pour certains, pour faire très simple, pour vraiment simplifier à mort, le problème de l'équation aujourd'hui, c'est un problème de recettes. Hein, il n'y a pas assez d'argent qui rentre pour financer tout ça, et notamment une taxation insuffisante des riches slash des ultra-riches en France. Puis à droite, on dit, non, c'est pas le problème, arrêtez, on est déjà un des pays de l'OCDE les plus taxés, les plus imposés, ou en tout cas, il faut réduire les dépenses. Voilà, ça, c'est pour schématiser de façon ultra le débat, il est celui-ci. Voilà. Pour FO, par exemple, c'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de recettes. Désormais, les cotisations sociales, elles-mêmes, présentent moins de la moitié des ressources de la Sécu, dit FO. Les allègements de charges patronales, parce que les deux mandats du président Macron se sont caractérisés par une baisse des impôts, des taxes, notamment sur les entreprises. Les allègements de charges patronales mettent ainsi à mal, selon FO, ce qui fait le cœur de notre système de solidarité. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Pour FO, lecture syndicale, afin de compenser les déséquilibres, l'État cherche à diminuer les dépenses en détricotant la protection sociale. C'est ce qu'on voit avec la multiplication des franchises ou les diminutions des droits des chômeurs. Il y a eu plusieurs réformes de l'indemnisation du chômage en France sous Macron. Plusieurs réformes successives. À chaque fois moins généreuses, hein, pour ceux qui l'ignorent. Mais sur les réseaux sociaux, c'est une autre musique qui s'est fait entendre ces derniers mois. À travers le hashtag Nicolas qui paie, le fameux, les internautes ont dénoncé un contrat social vécu comme une exploitation des trentenaires pour payer les retraites de Bernard et Chantal et le RSA de Karim. Pardon, hein, ce sont des mots utilisés par les comptes qui soutiennent ce hashtag Nicolas qui paie. Voilà. En gros, le problème n'est pas un problème de recettes, c'est un problème de dépenses. Hein, avec tous ces vieux, ces boomers qui profitent, alors que nous, on ne va pas pouvoir, et nous, on travaille. Et nous, on paie, et puis sans compter le RSA, etc. Donc là, pour ces gens-là, c'est un problème de dépenses. On dépense trop, on dépense mal. Rhétorique qu'a même semblé reprendre Bayrou quand il a dénoncé fin août le confort des boomers, d'ailleurs, qui ne se soucieraient pas du poids que fait peser la dette sur les plus jeunes. Et si les Français se disent toujours très majoritairement attachés à la sécurité sociale, plus encore qu'au Parlement, selon les enquêtes d'opinion, les attaques contre le modèle social semblent porter. Seuls 20% des Français estiment recevoir plus du système socio-fiscal qu'ils n'y contribuent, ce qui est complètement faux, alors que, selon une étude poussée de l'INSEE, ils sont 57% à en être bénéficiaires nets jusque dans les classes moyennes. Quand vous demandez aux Français, est-ce que vous êtes plutôt bénéficiaire du système, sur un plan strictement financier, ou est-ce qu'au contraire, vous payez plus que vous ne recevez ? Vous avez 20% des Français qui estiment recevoir plus du système qu'ils ne reçoivent, alors que selon les études de l'INSEE, en fait, ils sont 57%, c'est la redistribution. Mehdi me demande, tu fais pas grève, Samuel. En fait, je trouve que ce... Mehdi, tu peux arrêter de spammer, tu as déjà posé cette question. En fait, je pense que parler de cette journée de mobilisation, c'est important. Des centaines de milliers de personnes qui vont descendre dans la rue, des millions de personnes qui vont se mettre en grève aujourd'hui, ça n'est pas pour rien. Et ça veut dire quelque chose, ce dont on est en train de parler. Si les journalistes et les médias se mettent en grève aujourd'hui, qui va en parler ? Qui va dire que c'est important ? Je pense que c'est mieux d'en parler. Même si la Sécu a permis de grandes avancées, beaucoup voient d'abord les trous dans la raquette. La grève, c'est envers un patron de base. Sam, c'est qui son patron ? Bah, c'est moi. En fait, j'aime bien cette situation d'ailleurs, parce que je suis indépendant, donc mon patron, c'est moi. Donc, en fait, alors je pourrais me mettre en grève contre moi-même pour me demander une augmentation, par exemple. Et je sais pas comment je pourrais gérer cette situation. Est-ce que le Samuel présentateur, est-ce que le Samuel directeur va donner une augmentation au Samuel présentateur? Et est-ce que surtout, il ne peut pas entendre cette revendication autrement que par la grève? Je pense que si ce soir, au dîner, Samuel Etienne, directeur, se voit saisi d'une demande d'augmentation par Samuel Etienne, présentateur, il va l'entendre. Il va peut-être pas forcément y accéder, je ne sais pas si les comptes de la société le permettent, mais il va pouvoir l'entendre. Voilà. Disons que le lien d'échange entre Samuel et Samuel est assez direct. Il n'y a pas besoin de faire un préavis et une grève, quoi. Donc, je me suis dit que je n'allais pas faire grève aujourd'hui. Cette séquence est surréaliste, je suis complètement fou en fait, ça n'a aucun sens ce que je dis. Enfin, comme dit Célia, vous êtes combien dans ta tête? C'est une vraie bonne question. Même si la Sécu a permis de grandes avancées, beaucoup voient d'abord les trous dans la raquette, poursuit Julien Damon, les SDF, un enfant sur cinq qui vit dans la pauvreté, hein, les déserts médicaux, les personnes âgées dépendantes, pour lesquelles l'effort financier annoncé n'a jamais été vraiment décidé, ça c'est un vrai sujet aussi, hein. Cela participe à inquiéter les Français, à juste titre, sur l'avenir d'un système dont ils ne voient plus forcément tout ce qu'il leur apporte. Voilà. Bon, ce que nous dit le monsieur, c'est qu'en France, on a tendance à voir ce qui ne va pas. Et on a raison, aussi. Sans oublier tout ce que le système nous apporte. Nous avons sans doute un effort de pédagogie à faire, dit Éric Gautron. Les gens ont oublié que pour notre santé, le système social dépense chaque année 3 660 euros par personne, dont 500 euros de médicaments. Donc, voilà, ceux qui estiment que le problème aujourd'hui en France, c'est un problème de recettes, voilà, on ne collecte pas assez d'argent auprès de ceux qui en ont, et d'autres qui estiment que c'est un problème de dépenses, voilà, on dépense trop. Qu'est-ce que pense le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Guillot, cité par la Croix? Lui, il va dire que c'est un problème de dépenses. Nous avons à peu près le même modèle social et service public que nos voisins européens. Ouais, c'est sûr ça. Mais qui nous coûte 9 points de PIB de plus. Rappelons que la question est moins de faire baisser les dépenses que de maîtriser leur hausse pour qu'elles n'augmentent pas plus que l'inflation. Or, c'est justement sur ce partage de l'effort que le bas du budget Bayrou a blessé, semblant surtout mettre à contribution pour sauver le modèle social les actifs qui avaient déjà dû subir une réforme des retraites imposant 2 ans de travail supplémentaire. Plutôt que de faire contribuer les entreprises les plus riches, bien sûr, ou les plus fortunés en France. C'est ce qu'on peut reprocher à Bayrou. Bayrou, à un moment, il dit, les gars, on a 3 000 milliards de dollars de dette, on a une charge de la dette, les intérêts qui explosent. À un moment, il va falloir qu'on réduise ça. Donc moi, je vous propose de faire, pour le budget 2026, une économie de 44 milliards. Okay. Et puis il dit, voilà comment on va faire. On va durcir un petit peu la redistribution sociale, on va taper un petit peu les retraités en supprimant les 10% d'abattement sur ce qu'ils déclarent. On va faire une année blanche également, on va pas revaloriser les retraites ni plein de choses, etc. etc. Et puis à un moment, quelqu'un lui dit, mais et les entreprises les plus riches et puis les ultra riches en France Oui, c'est vrai. On va peut-être faire quelque chose, mais sans dire ce qu'il allait faire. Donc certains ont dit t'es gentil, François. Franchouille, comme disent ses amis. Mais si tu veux demander des efforts aux Français, il faut demander des efforts à tout le monde. Et je suis assez d'accord avec cette analyse. Conclusion de Marie-Lise Léon de la CFDT. Le gouvernement va devoir choisir entre maintenir son dogme fiscal macroniste de ne pas augmenter les impôts et plutôt de les baisser, qui ne mène qu'à l'impasse, estime la CFDT, et une réelle prise en compte des attentes des travailleurs. Sébastien Lecornu explique vouloir être dans la rupture, c'est ce qu'il a dit. Les gens veulent pouvoir être écoutés, entendus, et que des choses changent concrètement. Je vous lis un petit peu, j'ai beaucoup parlé. Je vous lis. Samuel, faut-il réformer l'avantage fiscal des journalistes? Ça fait partie des efforts. Mehdi, tu n'es pas au courant de l'évolution de ce sujet. Effectivement, ça a été un vrai sujet à une époque. Mais en fait, vous savez qu'à l'heure d'Internet et de Google, ces informations-là, vous pouvez les trouver tout de suite en 10 secondes. Par exemple, si vous vous intéressez vraiment à ce sujet en disant, en ayant entendu au dîner en famille week-end dernier, tonton Bernard dire « Ah ouais, mais d'abord les journalistes, l'avantage fiscal, ils oublient d'en parler et tout. » Bon, ça c'est ce qu'a dit tonton Bernard. Mais toi, sur Internet, tu peux aller chercher les infos là-dessus et tu te rendrais compte en quelques secondes que ça a beaucoup changé. Alors longtemps, il y avait un truc qui était un peu scandaleux. C'est que les gens, bon, je vous le fais très vite, mais pour vous montrer comment vous pouvez vous informer très très vite en faisant une recherche par vous-même et que vous ne pouvez pas toujours compter sur tonton Bernard, quoi. Ou Patrick, peu importe, hein, j'ai rien contre Bernard. Il y a une époque, les journalistes avaient un abattement fiscal de 30%. Toi, je ne t'aime pas, monsieur anti-RN. Pardon d'avoir pris une voix de con, Anisette, je suis désolé, je ne le referai plus. Ils avaient un abattement de 30%. C'est énorme. Mais dis oui, je parlais de ça. Mais moi aussi, je vais te parler de ça. 30%, c'est-à-dire que le journaliste, à la fin de l'année, c'était il y a longtemps, hein, il prenait son salaire annuel, il enlevait 30%, chut, et il ne déclarait que 70%. La fête, quoi. Énorme, comme dit Aaron Deal. Eh ouais, c'était l'abattement fiscal. Voilà. Donc ça, c'était il y a très longtemps. Et puis, c'était un truc qui avait été inventé après la Seconde Guerre mondiale pour soutenir les médias, notamment les journaux, qui n'avaient pas trop de sous pour payer les journalistes. Et l'État, à l'époque, avait dit « Bon, les patrons de presse, vous inquiétez pas, on va créer un petit abattement fiscal pour les journalistes, comme ça, vous pourrez moins les payer, ils auront un abattement fiscal. » Arrête, Mehdi, putain! Laisse-moi développer un petit peu. Mehdi dit « Très longtemps, tu peux être pressé ?» Putain, mais je suis en plein développement, vous êtes casse-couilles, en vrai. T'es pas au McDo, ici, c'est pas à la commande, hein. Laisse-moi développer, c'est incroyable, ça. Oh là là, Mehdi, vous êtes 400 sur TikTok, vous êtes 4000 sur Twitch. T'imagines si tout le monde relançait comme ça en permanence? Laisse-moi développer, bordel. Donc ça, c'était énorme. 30%. Et ça favorisait qui? Ben, notamment les journalistes les plus aisés, les plus riches, les stars de la télé, de la radio, qui avaient parfois des salaires annuels gigantesques, et il y avait 30% de ça qui ne déclaraient pas. Bon, à un moment, le législateur s'est dit « Dis donc, ça va les journalistes, vous vous mettez bien, vous ?» Et donc, on a plafonné cet abattement, cet avantage. Alors moi, j'ai commencé à bosser il y a 30 ans, et à l'époque, je crois, c'était déjà plafonné, ou ça l'a été très peu de temps après, je sais plus combien, je crois que c'était 7 650 € par an. C'est-à-dire que, le chat va vérifier en deux secondes, à l'heure d'Internet, tu peux trouver ça en deux secondes. En fait, c'était plus 30% de tes revenus annuels, c'était 30% de tes revenus dans la limite de 7 650 €. Alors tu prenais ton salaire annuel, voilà, à une époque, un mec qui gagnait 100 000 € par an, eh ben, il y a 33 000 € qui ne déclaraient pas au fisc. Et avec la réforme, qui remonte à, je sais pas, je dirais à l'âge 20 ou 30 ans, eh bien c'était 7 650 € maximum. C'est-à-dire, il enlevait plus 33 000 €, il enlevait 7 650 € max. C'était pour limiter cet avantage fiscal, et du coup que ça profite surtout aux petits et... arrête de faire des lives facho. Bah, arrête de venir sur mon live, surtout, Trinco. Il y a plein de chaînes sur TikTok. Il y a des meufs qui dansent en maillot de bain. Il y a des gens qui font de la musique. Il y a des gens qui font des tours de magie. Fais-moi plaisir. Va te cultiver ailleurs, en vrai, quoi. Je le banne pas, parce que c'est assez rigolo de le lire, en fait. Régalez-vous, les amis de TikTok. Le gars, il s'appelle Trinco66. Et donc, ça a été plafonné. Voilà. Ce qui est plutôt bien, en vrai. Et pour qu'en gros les journalistes avec des salaires petits ou moyens aient toujours cet avantage-là, voilà, et que les gros n'en profitent plus. Voilà. Et puis, il y a une autre réforme de ce truc-là, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, voilà, qui a dit, ben voilà, pour les journalistes les plus fortunés, qui ont la chance d'avoir un bon salaire, il n'y aura même plus les 7 650 €. Voilà, ce sera zéro. Voilà. Donc, quand vous dites, parce que vous avez entendu tonton Bernard dimanche dire « Eh ouais, les journalistes, leur avantage fiscal !» Alors, c'est pas complètement faux. Il y a un avantage fiscal pour les journalistes en France, mais il est plafonné à 7 650 € retiré à tes revenus annuels pour les journalistes qui ont des salaires petits et moyens, En revanche, pour ceux qui, en ont, à une époque, il y a très longtemps, en ont profité bien, il n'existe plus. Voilà. Mais ça, tu le trouves en deux secondes. Mais il faut le trouver, mais il faut le chercher. C'est comme ça qu'on s'informe. Et comme ça, la prochaine fois que vous verrez Tonton Bernard, qui après l'apéro du dimanche dira son truc sur les journalistes, pourra dire, alors c'est vrai Tonton, allez-y doucement parce qu'il peut se fâcher, c'est vrai, mais alors si tu regardes, ça a été quand même pas mal limité. Walou. Est-ce qu'on peut revenir à notre sujet sur la grève d'aujourd'hui? Merci messieurs pour ton message. En fait, aujourd'hui, alors Internet et les réseaux sociaux et tout ça, c'est à la fois formidable et très, très embêtant. Alors, très embêtant parce que ça vous donne plein d'informations dont on ne sait pas toujours d'où elles viennent, toutes sur le même niveau. Et c'est compliqué de reconnaître une source plus ou moins de qualité. Donc on est abreuvé d'infos et de divertissements. Et parfois trop, et parfois on va être désinformé, mal influencé par des contenus de qualité moyenne, quoi. Les fake news, etc. Certes, mais Internet et les réseaux, et même l'IA, bien utilisés, sont des outils qui peuvent, au contraire, te permettre, si tu veux bien prendre quelques minutes, sur plein de sujets, assez rapidement, trouver des réponses à tes questions. Voilà, avec un petit peu de rigueur. Mais voilà. C'est une révolution, et en vrai, c'est fascinant, quoi. Samuel, tu dis que c'est abaissé, c'est vrai, mais c'est quand même une inégalité. Et nous, mais t'as raison, Mehdi. Hein. On pourrait décider de supprimer aussi cet abattement fiscal pour les journalistes au salaire petit et moyen. C'est une inégalité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, je ne le conteste pas. Tout à fait. Une fois que j'ai expliqué que cet abattement il a diminué, ça ne veut pas dire qu'il est juste. Hein. Hein. Donc c'est là où la question de Mehdi est intéressante. Bon, voilà pour le mouvement social d'aujourd'hui. On en reparlera demain, puisque demain matin on sera en vue de presse, comme tous les jours du lundi au vendredi. Et on aura les chiffres de la mobilisation, les chiffres, les taux de grévistes, les messages qui ont été portés, les réactions politiques, donc on en reparlera encore demain. Maintenant, on va passer à un sujet dont on parle tous les jours, qui souvent apaise le chat, qui est Gaza. Là, on va parler de la Palestine et on va parler d'Israël. Hop, donc on change la petite flèche sur Twitch. On part sur Gaza. Ce qui nous permettra, c'est un vrai progrès, en tout cas sur Twitch, parce que désolé, sur TikTok, vous n'avez pas le sommaire, vous n'avez pas la place. Ce qui nous permettra enfin de plus avoir les gens qui arrivent une demi-heure avant le débat, ou une demi-heure après le débat, ou 10 minutes, en disant « Jamais tu parles de Gaza, toi ?» Tous les jours, dans le chat, on a le gars qui débarque. Voilà. 5 minutes avant qu'on en parle, ou 5 minutes après qu'on en ait parlé, il dit « Et toi, tu parles jamais de Gaza ?» Bon, alors évidemment, les habitués savent qu'on en parle tous les jours. Mais toi, tu viens de Pop, voilà, tu regardes cette chaîne pour la première fois, et puis t'es en mode justicier. Hein, t'as pris ton épée, ton masque, ton chapeau, t'as Bernardo à côté de toi, et puis c'est parti. Et toi, jamais tu parles de Gaza, alors que littéralement, on en parle tous les jours pendant des heures, quoi. Bon, grâce à ce sommaire, vous pourrez m'aider en disant, mais regarde, il en a parlé, il va en parler. Ouf. Ah oui, sauf TikTok, vous l'avez pas ce truc. Mais oui, mais vous avez une petite fenêtre comme ça, toute verticale, on peut rien mettre là. Hein? Bon, qu'est-ce qui se passe? L'armée israélienne a lancé en début de semaine une offensive contre la capitale de Gaza, Gaza City. Pourquoi? Comment? Lisons d'abord les infos du Monde et après on verra plein d'autres choses. On verra est-ce que l'Europe va prendre des sanctions contre Israël? C'est pas sûr. On verra après on parle un peu de la politique. Voilà, c'est les deux sujets dont on va parler ce matin. Voilà. D'abord Gaza. Moi aussi Antoine, je t'aime. À Gazaville, la peur d'une fuite sans retour. Israël détruit, chaque mot est important dans ce type d'article. Israël, le gouvernement israélien, l'État israélien, détruit méthodiquement la plus grande cité de l'enclave, forçant les habitants à un exode massif. Considérée comme la plus haute de la ville de Gaza, la tour Al-Ghafri s'effondre lundi comme un château de cartes. Au sol, elle n'est plus qu'un amas de gravats sur lequel se précipitent des familles désespérées cherchant à récupérer quelques affaires parmi les ruines. Depuis une dizaine de jours, l'armée israélienne détruit méthodiquement les infrastructures urbaines de la plus grande agglomération de l'enclave palestinienne dans le cadre de son offensive visant à prendre le contrôle de la ville et dont une nouvelle phase terrestre s'est ouverte mardi. Tours et immeubles abritant logements, locaux d'institutions publiques et privées, écoles et mosquées sont pulvérisées, Gaza, cité millénaire où se concentre une population d'un million d'habitants, semble vivre ces derniers instants. L'armée assure que 350 000 personnes auraient fui la ville, le Hamas 190 000, l'ONU lundi évoquait le chiffre de 220 000. Mardi, les troupes israéliennes ont commencé à se diriger vers le centre de la ville. C'est un processus graduel, a affirmé un responsable militaire, précisant que le nombre de soldats augmenterait dans les prochains jours. Pour la population, l'aspect graduel n'est guère perceptible. L'État hébreu semble plutôt avoir mis à exécution les promesses de son ministre de la Défense, Israël Katz, d'ouvrir les portes de l'enfer sur Gaza. Émis le 5 septembre. Tous les petits malins dans le chat TikTok là, qui parlent du Nutella Shop à Gaza. Vous savez ce que vous faites? Vous êtes en train de cracher sur les victimes civiles de Gaza. Vous êtes en train de cracher sur les hommes, les femmes, les enfants qui meurent à Gaza. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Je vous demande un petit peu de tenue. Merci à vous. Donc, pour la population, l'aspect graduel n'est guère perceptible. L'État hébreu semble plutôt avoir mis à exécution les promesses de son ministre de la Défense d'ouvrir les portes de l'enfer sur Gaza. Un déluge de feu s'abat sur les habitants, massacrés par des bombardements massifs. C'est ça la réalité. Menés par les avions de chasse, des drones, des robots explosifs qui réduisent les quartiers, des quartiers entiers en ruines. La nuit, le ciel s'embrase sous les explosions. Une centaine de personnes ont été tuées pour la seule journée de mardi selon les autorités locales. J'habite une tour où à chaque missile lancé, c'est comme s'ils étaient un tremblement de terre, témoigne un journaliste francophone joué par un téléphone, il s'appelle Rami Aboujamous, qui est un résident du quartier de Rimal, ciblé depuis 48 heures par ses frappes incessantes. Israël, je le rappelle, interdit l'accès à Gaza aux journalistes étrangers depuis le 7 octobre 2023. Pourquoi à un moment un pays, un État interdit l'accès des journalistes étrangers, des journalistes à un territoire sinon pour cacher ce qui s'y passe? Je pose la question et vous avez la réponse. Israël interdit l'accès à l'enclave palestinienne aux journalistes étrangers depuis le 7 octobre 2023. Dans ce quartier où se trouve l'hôpital Al-Shifa, ravagé, quasiment détruit par un siège spectaculaire des Israéliens qui a duré 2 semaines, fin mars 2024. Ne fonctionnant que partiellement, cet hôpital déborde de morts et de blessés, principalement des enfants et des femmes, selon son directeur. Nous n'avons même plus de place dans les chambres frigorifiques, dit-il, évoquant des blessures critiques nécessitant des amputations, des brûlures impossibles à soigner. Il y a quelques jours, on a lu le témoignage d'un chirurgien français qui bénévolement opère, revient de plusieurs semaines passées à Gaza, où il opère bénévolement, où il témoignait de ça. Quelques 1700 tours et immeubles résidentiels. 13 000 tentes hébergeant des déplacés ont été détruits. laissant plus de 100 000 personnes sans abri, selon les autorités locales. Sayed Abou Alker a appris par un voisin contacté par l'armée que son immeuble de 6 étages, violemment bombardé ces derniers jours, allait être détruit et... Qu'est-ce qu'il dit ? Il manque un mot. Donc bref, l'homme était dans la rue avec son fils, il a couru chez lui pour tenter d'évacuer 60 membres de sa famille. Nous avons supplié un officier israélien des renseignements au téléphone pour avoir du temps supplémentaire, cela a été refusé. 8 minutes, ah ouais, d'accord, c'est ça cette info, il avait 8 minutes pour évacuer. 8 minutes pour 60 personnes, ce n'est rien. Descendre les escaliers après un temps fou avec des enfants en bas âge, des malades, des personnes âgées. La famille a dû fuir sans rien emporter, s'est retrouvée dispersée dans la ville. Je ne sais plus où aller ni quoi faire, nous n'avons absolument rien, ni argent, ni habits, rien. La ville de Gaza, donc ça c'est des témoignages d'habitants, vous l'avez compris. La ville de Gaza, déjà partiellement détruite lors des premiers mois de l'offensive israélienne, avait vu sa population déplacée massivement. La majorité était revenue après le cessez-le-feu de janvier, rompue unilatéralement par Israël 2 mois plus tard, mais beaucoup avaient retrouvé leur maison détruite et avaient dû vivre sous une tente. Pour ceux qui lui posent la question, on est en train de lire un article du Monde. Aujourd'hui, les habitants sont contraints de tout laisser dans la peur de ne jamais pouvoir revenir, ravivant le traumatisme de la Nakba, l'exode forcé de 700 000 Palestiniens lors de la création de l'État hébreu en 1948. Les derniers moments avant le départ ont été comme un étranglement, témoigne une mère de famille. Gaza, c'est pour moi le futur de mes enfants. Mes rêves, mes biens, nos souvenirs, la mémoire de ma mère décédée. Soudain, il faut tout abandonner pour un destin inconnu. Aujourd'hui, nous disons adieu pour de bon. C'est un sentiment insoutenable, dit Manal Awad, qui est la maman de 2 enfants. Pour un analyste poétique de Gaza, qui s'appelle Ahmad Al-Tanani, contraint aussi lui au déplacement, alors qu'il est atteint d'un cancer, l'objectif principal d'Israël est de frapper ce que représente Gaza. La seule ville qui tienne encore debout et conserve une valeur économique et administrative malgré sa destruction partielle. L'armée d'occupation cherche à effacer même l'idée même d'une reconstruction possible. Si la ville de Gaza est rasée, ce qui est en train de se passer, cela veut dire qu'on s'oriente effectivement vers un plan d'exil forcé des Palestiniens de Gaza. Et le silence du monde signifie qu'il est complice de ce projet. Vous savez que la condition sine qua non du retour de la paix un jour dans la région, c'est la création d'un État palestinien. La coexistence plus ou moins tendue, mais la coexistence de 2 États, un israélien, un palestinien, et des frontières à l'intérieur desquelles ces 2 peuples peuvent vivre en sécurité. Parce que les Israéliens ont le droit à la sécurité. Évidemment. Comme les Palestiniens ont le droit à la sécurité, évidemment. Sauf que s'il n'y a plus de Palestiniens, en Palestine. S'ils sont tous chassés, évacués, on ne sait où encore, puisque aucun État de la région veut les accueillir par ailleurs, cette solution ne peut pas être mise en place. Alors, la communauté internationale et des pays comme la France, dans les prochains jours, peuvent reconnaître l'État palestinien, ce qu'ont fait la plupart des pays depuis très longtemps. Mais s'il n'y a plus de Palestiniens... Israël, ou plus précisément l'actuel gouvernement Netanyahou allié à l'extrême droite, et tous les opposants à la paix en Israël, et pays où il y a toujours eu des partisans de la paix également, eh bien, eux auront gagné. Hein, c'est les mêmes qui créent des colonies illégales en Cisjordanie. Voilà. Pardon pour cette parenthèse. Certains habitants s'accrochent encore à leur mur malgré le danger. Khalil Al-Mok, 35 ans, vit avec sa famille, ses parents, dans un immeuble de 2 étages qu'il a rejoint après avoir lui-même été déplacé en 2024. Les missiles tombent presque à ses pieds, mais il refuse de quitter son logement pour le moment. Hein, il a loué un camion, dit-il, pour emporter les meubles au cas où, mais pour l'instant, il reste là. Khalil est confronté au dilemme de milliers de Gazaouis actuellement. Rester et risquer la mort immédiate ou partir et mourir à petit feu sans garantie de sécurité. Sa fille de 4 ans, malade du cœur, ne pourrait supporter un nouveau déplacement. Le lancement de cette offensive terrestre a suscité des condamnations internationales, sans sanctions concrètes contre Israël. Je rappelle que l'armée israélienne, que l'état-major de l'armée israélienne s'est déclaré opposé à cette opération. L'état-major, le chef de l'armée israélienne, a dit à Netanyahou que c'était de ni fait ni affaire, que cette offensive contre Gaza ne servait absolument pas les intérêts d'Israël. Et l'armée elle-même dit à Netanyahou que c'est une connerie. Voilà. Après, l'armée israélienne est aux ordres, bien sûr, du politique. Je pense que vous le savez. Donc, le lancement de l'offensive terrestre a suscité des condamnations internationales sans sanctions concrètes contre Israël. Le secrétaire général de l'ONU a déploré une situation moralement, politiquement et légalement intolérable à Gaza. Une commission d'enquête, et on en a très longuement parlé hier, puisqu'on a très longuement parlé hier la notion de génocide, de même qu'on en a très souvent parlé. Merci Bruno Universimu pour ton raid, et on en a parlé pendant des heures déjà, les dernières semaines, les derniers mois, mais hier spécifiquement on en a parlé, vous avez le replay sur Twitch et sur YouTube. Une commission d'enquête de l'ONU a accusé mardi Israël de commettre un génocide dans l'enclave. Nous n'avons pas besoin de vocabulaire supplémentaire pour enrichir notre histoire de souffrance. Ce qu'il nous faut, c'est une action mettant fin à ce génocide, à ce nettoyage ethnique, à cette famille. Allez, je vous lis. Et après, on va parler du fait que l'Europe n'arrive pas à s'entendre sur des sanctions. Alors, bon, moi, essayez avec mes petites connaissances de décrypter un conflit dont les racines remontent à des dizaines d'années, voire à des siècles, voire à des milliers d'années. Hein, le conflit israélo-palestinien dont on parle, avec mes petites connaissances, c'est vraiment très casse-gueule parce que je ne suis pas sûr d'être un expert du sujet. Mais bon, c'est un sujet qui me passionne depuis 30 ans parce que c'est un sujet qui est très important et qui est très grave. Donc je fais avec mes petites connaissances. Par exemple, quand je vois même de Confine qui dit, et c'est une question qui est vraiment intéressante, quelle différence entre Israël et n'importe quel autre État colon qui a été forcé de partir tôt ou tard ? On fait référence aux pays européens qui ont été colonisateurs, vous le savez, sur une grosse partie du globe. Quelle différence ? Bah, y a une différence déjà que je vois. C'est qu'en fait, Israël, les Juifs n'avaient pas de pays, n'avaient pas d'État avant 48. C'est pas un État colon, un pays colon qui vient coloniser. Il n'y avait pas d'État. À un moment, le colon britannique d'ailleurs, et la communauté internationale estiment que c'est une bonne idée de donner un pays, des frontières, à un peuple qui souffre depuis des milliers d'années d'antisémitisme, de violence, de pogroms, jusqu'à la Shoah nazie, hein, ce plan de suppression d'annihilation du peuple juif. Et à un moment, la communauté internationale, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et le colon britannique, dit « Bon, les gars, on va proposer, c'est ce qu'on appelle... Le sionisme, à l'origine, c'est un mouvement intellectuel, philosophique, politique, qui dit « Il faut, pour que les juifs, un jour, puissent vivre protégés des violences qu'ils vivent depuis toujours... » qui s'intéresse un petit peu à l'histoire, il faut qu'ils puissent vivre en sécurité dans un endroit, dans un pays, dans un État. Voilà. Le sionisme, c'est ça. Aujourd'hui, ça a pris l'acceptation moderne du mot sionisme a pris une autre signification aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent les sionistes, ce sont les gens qui font du mal aux Palestiniens. Voilà. À l'origine, le sionisme, c'est un mouvement qui vise à la création de l'État d'Israël. Voilà. Attention, tous les juifs ne sont pas sionistes. Dans la première, tu vois, Coco Toto Moka dit « Désolé, mais tu te trompes sur le sionisme. » C'est quelqu'un qui n'a que la version très très moderne du mot sioniste. Après, si tu fais des recherches, tu vas te rendre compte que le sionisme, historiquement, c'est autre chose. Et il y a des juifs qui sont pas sionistes. Il y a des juifs qui estiment qu'il ne faut pas créer un État d'Israël, par exemple. Mais c'est autre chose. Voilà, tu vois, Mehdi 75, c'est une acceptation moderne et très courante aujourd'hui. Le sioniste veut le grand Israël, donc veut la disparition de la Palestine. Ça, le problème, c'est que c'est le même mot. Voilà. C'est le même mot. Et donc, pour répondre à ta question, quelle différence entre Israël et un État colonial classique ? Ben, la grosse différence, c'est qu'à l'origine, avant que les Juifs s'installent sur ce territoire où historiquement vivaient des Palestiniens, mais pas dans le cadre d'un État et d'un pays, ok ? Eh bien, ils n'avaient pas de pays. Le sionisme, c'est Theodor Herzl, merci Universal, qui connaît un peu son histoire. Donc c'est une différence qui est gigantesque, en fait. Je vous lis. Je vous lis. La France a-t-elle raison de reconnaître l'État de Palestine ? Dit Clem, le jeté de vélo. Pour moi, oui. La France s'apprête à reconnaître, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, dans quelques jours, l'État de Palestine, ce qu'ont fait la plupart des pays du monde depuis très longtemps, mais pas les pays les plus riches, les pays du G7. Voilà. Et oui, ça n'est pas grand-chose, on est dans le domaine du symbole, de la politique. Hein, que la France, que Paris reconnaisse l'État de Palestine ne va pas changer la situation des Gazaouis. Mais à moyen et à long terme, ça change quelque chose. C'est une pression supplémentaire sur l'État d'Israël. D'autant que la France ne va pas être seule. Il y a d'autres pays européens qui vont suivre. Donc, on est dans le domaine du symbole. Ça n'est évidemment pas suffisant, mais avec des petits plus, on peut imaginez qu'un jour ça puisse faire bouger un peu les choses. À supposer qu'il y ait encore des Palestiniens à protéger dans le cadre d'un État. Tu n'es pas prêt de refaire de la télé, mon pauvre Étienne, nous dit Evry Boudy. Mon prénom c'est Samuel et ça tombe bien, ça n'est pas mon projet. Oh, je pense pas que c'est une menace, non. Et puis on s'en contre fou surtout. Merci Abdella. Ok, les amis, pardon de ne pas répondre à toutes vos questions, la plupart sont très pertinentes, sur Gaza, sur la Palestine, sur Israël, on en parle tous les jours, et donc je ne peux pas répondre tous les jours aux mêmes questions, mais si vous revenez régulièrement sur cette chaîne, vous verrez que tous les jours on en parle, et qu'on essaye d'avancer ensemble sur ce sujet. Voilà. Mais en tout cas, je salue la qualité des deux chats sur un sujet aussi compliqué que ça, il y a toujours des fous du bus, mais à 99%, c'est mesuré, et c'est intelligent. On continue avec ce sujet du Proche-Orient, avec cette question. Au vu de ce qui se passe, une des conclusions à laquelle je suis arrivé, c'est que, là aussi c'est juste mon avis là-dessus et il peut être complètement erroné, la seule chose qui pourra faire changer les choses, là en ce moment dans cette région, et faire pression sur le gouvernement Netanyahou, c'est une pression extrêmement fort de la communauté internationale. Bon, en fait, on le sait depuis très longtemps, sauf que la communauté internationale ne l'a jamais fait, même si parfois il y a eu des choses intéressantes dans le processus, ce qu'on a appelé le processus de paix israélo-palestinien à une époque, mais on en est très très loin. Et ça ne viendra que de ça. Voilà. Alors, de qui peut venir la pression ? Alors, des États arabes de la région, non, pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées ici. Voilà. Des États-Unis. Bah, idéalement, il le faudrait, puisque le grand allié d'Israël, historiquement, ce sont les États-Unis. Et le jour où un président américain décidera de mettre la pression sur Israël pour changer les choses, là, ce sera un game changer, mais ce ne sera pas avec Trump. Voilà. Ou alors, je serai très surpris. Et puis, quid de l'Europe ? Qu'est-ce que fait l'Union européenne? Eh bien, pour l'instant, rien. Ah oui, si, les discours, les grands mots, c'est vraiment grave ce qui se passe, ça, oui. Mais concrètement, rien. Pourquoi? Et notamment parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Sanctions contre Israël, c'est un article dans Libération. Le vœu pieux de l'UE, la présidente de la Commission européenne, qui est Ursula von der Leyen, a proposé mercredi la suspension des avantages douaniers dont bénéficient les exportations israéliennes vers l'UE. Des sanctions commerciales contre Israël. Voilà ce que propose von der Leyen. Mesure qui a peu de chances d'être adoptée par les 27, parce que certains pays sont favorables, comme la France, mais d'autres y sont opposés, comme l'Allemagne et l'Italie. Près de 2 ans de guerre à Gaza. Le soutien à Israël s'érode, s'affaiblit, c'est vrai, parmi les membres de l'Union européenne. La reprise des combats en mai avec l'opération Chariot de Gédéon, l'offensive lancée contre la ville de Gaza, ont poussé Ursula von der Leyen, donc qui est la présidente de la Commission européenne, soucieuse de coller à une opinion publique qu'elle juge excédée par la poursuite de la guerre, a proposé de sanctionner Israël, Tel Aviv. Elle souhaite suspendre une partie de l'accord d'association UE-Israël. Il y a un accord d'association entre l'Union européenne et Israël depuis longtemps. Donc elle propose de suspendre une partie de cet accord, cet accord qui accorde des droits de douane nuls pour une partie des exportations d'Israël. Si cette mesure était adoptée, elle constituerait un précédent, surtout concernant un pays démocratique, mais il est douteux qu'une majorité qualifiée d'État, hein, puisqu'il faut que 55% des États de l'Union européenne, représentant 65% de la population, la suivent dans cette voie, ce qu'on appelle un vote à majorité qualifiée. Et s'il n'y a pas cette majorité, eh bien, cette décision n'est pas prise. Merci Bruno Universimu pour ton soutien. Merci Gooms Crypto, Turbojet et la Nixon. C'est lors de son discours sur l'état de l'Union prononcé le 10 septembre que l'ancienne ministre de la Défense d'Angela Merkel, donc Ursula von der Leyen, a estimé qu'il était temps enfin de tordre le bras au gouvernement israélien. Ce qui est en jeu pour elle, c'est pas seulement la poursuite de la guerre ou la situation humanitaire, c'est aussi la volonté de Netanyahou de rendre impossible toute solution politique durable. Il y a la guerre, il y a les victimes, il y a la situation humanitaire, il y a la famine, mais il y a aussi, pour von der Leyen, le fait que Netanyahou fait tout pour qu'aucune solution pacifique puisse s'installer un jour. En encourageant ou laissant faire la colonisation illégale par des colons juifs de la Cisjordanie, en ne cessant de déplacer et de frapper les Palestiniens dans Gaza. Quelqu'un disait tout à l'heure dans le chat, on ne vivra jamais, notre vivant ne connaîtra pas une issue à ce conflit. En tout cas, Netanyahou fait tout pour, effectivement. Et donc, c'est une des raisons qui motive von der Leyen. Nous avons vu comment l'autorité palestinienne a été financièrement étouffée, comment les projets de colonisation dont je vous parlais à l'instant, dans la zone dite E1, par lesquelles la Cisjordanie occupée serait coupée de Jérusalem, et, parce qu'on a en plus des déclarations publiques de responsables israéliens pour documenter tout cela, et les déclarations des ministres les plus extrémistes du gouvernement qui incitent à la violence. Voilà. Il y a un ancien ministre de ce gouvernement qui qualifiait les Palestiniens d'animaux. Voilà. Tout cela témoigne d'une tentative claire de saper la solution à deux États, de saper la vision d'un État palestinien viable, c'est ce que je vous disais à l'instant, voilà. Et nous ne devons pas laisser une chose pareille se produire, c'est ce que dit la présidente de la Commission européenne. L'idée est donc de taper Israël au portefeuille, sachant que l'UE est son premier partenaire commercial. Donc vous voyez que l'Union européenne, dont on dit souvent, oui, les Européens, c'est des faibles, ils n'ont pas les moyens d'eux par rapport aux géants chinois, américains. Le premier partenaire commercial d'Israël, c'est l'UE. Si l'UE décide de sanctionner Israël, ça va se voir. Il ne s'agirait pas d'interrompre les flux commerciaux, simplement de suspendre les avantages tarifaires dont bénéficient certains produits. Voilà. Fruits, légumes, plastiques, etc. En clair, il retomberait dans le droit commun des tarifs douaniers. Voilà, et donc, il y aurait plus de taxes. Quoi. La von der Leyen demande aussi que les deux ministres d'extrême droite de Netanyahou soient sanctionnés personnellement. Ainsi que les colons violents de Cisjordanie, mais aussi une dizaine de responsables du Hamas impliqués dans l'attaque du 7 octobre 2023. Enfin, la commission a décidé d'interrompre unilatéralement son aide bilatérale, une vingtaine de millions d'euros. Pour le coup, c'est pas grand-chose, mais c'est symbolique. Alors le problème, c'est que ça, c'est la proposition de von der Leyen, mais il n'y a pas de majorité pour voter ça. Il faut une majorité qualifiée parmi les 27 hein, pour toucher à cet accord d'association dont on parle. Berlin, Rome, Budapest, Sofia, Prague, ils sont actuellement défavorables. Hein. Merci Godis. Et donc il y a peu de chances que ça intervienne dans les prochains jours. Je vous lis. La position de Berlin n'a pas évolué. Alors si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a plus de Death Note, l'artiste. Je suis devenu hyper chill. Si je dis pas de bêtises, est-ce que l'Allemagne ne parle pas aussi de reconnaître à court terme l'État de Palestine? Donc il y a une évolution quand même, mais pas sur les sanctions. Ouais. Le chat va me le confirmer. Je crois qu'il y a. Je me demande s'il n'y a pas une histoire en ce sens. Non? Je croyais. Voilà. Bon, voilà ce matin pour ce qu'on pouvait lire des dernières informations sur la région. On ne fait pas le tour du sujet. On aura l'occasion d'en parler dans les prochains jours, bien sûr. Sugar me précise, en tout cas, pas à la prochaine assemblée de l'ONU. Ok, merci. Donc, pas de changement de la position allemande sur la Palestine. Alors, pour les raisons historiques que vous connaissez, l'Allemagne, pour les raisons évidentes, a du mal à s'opposer à Israël. Si vous posez la question de savoir pourquoi, remontez à la Seconde Guerre mondiale. Quelle heure il est? Midi 12? Oh, ça va trop vite. J'accélère un petit peu. J'avais dit midi 30, on va peut-être déborder un petit peu. Parlons un peu de politique. Voilà, hop. Dans le sommaire, on change la petite flèche. On va parler du nouveau Premier ministre, celui qui est en train de former son gouvernement. Ce sera intéressant de voir quel ministre il choisit, quelle sera la couleur de ce gouvernement. Parlons de ce Premier ministre et de ses relations avec les socialistes. C'est dans Libération ce matin. Quelqu'un me disait, est-ce que tu lis que Le Monde et Libération? Non, ça dépend beaucoup des jours. Hein. Il y a des jours où je trouve rien dans Libé, je trouve rien dans Le Monde et je lis tout dans Le Parisien ou dans La Croix et qu'on va lire, qu'on a lu d'ailleurs tout à l'heure. Mais ça dépend des jours. Il y a pas de règle. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de savoir si le prochain gouvernement va avoir une couleur un peu de gauche. Notamment en matière de politique fiscale. Est-ce que les ultra-riches vont être imposés davantage, par exemple? En tout cas, c'est l'espoir des socialistes qui disent « Bon, c'est notre tour maintenant. Macron a essayé des premiers ministres centristes slash macronistes slash de droite et ça n'a pas marché. Donc maintenant, c'est notre tour. Rappelons que c'est nous qui avons gagné les législatives, puisque vous savez que la gauche dit avoir gagné les législatives. Bon, le RN également. Et donc, les socialistes disent « C'est notre tour. » Il faut nommer un premier ministre de gauche, ou en tout cas appliquer une politique de gauche. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez sauter, monsieur Lecornu, puisqu'on va participer à une motion de censure contre vous, et vous allez dégager en moins de temps qu'il est nécessaire pour le dire. Donc il y a des discussions en ce moment, et on ne sait pas trop ce qui va en sortir. Sébastien Lecornu reste flou, et la gauche sur sa faim. C'était pour vous tenir au courant des discussions, hein. Reçu mercredi à Matignon, socialistes, écologistes, communistes attendent encore de vrais gages de rupture vantés par le nouveau Premier ministre. 2 heures de rencontre pour finalement pas grand-chose, peu d'informations. Premier reçu mercredi par Lecornu. Dans cette journée de consultation des oppositions, les socialistes sont restés sur leur faim. Qui a dit ça? C'est Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. À en croire les dirigeants socialistes, Le Cornu, M. Sébastien Le Cornu, est resté très flou sur ses intentions. Pour l'instant, nous ne savons rien de ce qu'il compte faire, a dit le PS. Dans le PS qui rappelle ses chantiers prioritaires pour 2026, augmenter le pouvoir d'achat, une meilleure justice fiscale, hein, relancer la croissance française, hein, et reparler de la réforme des retraites. Aucun des sujets n'a semblé froisser le Premier ministre, mais voilà, il n'a fait aucune réponse à ces questions. Donc, le PS dit, pour l'instant, impossible de vous dire si on va censurer ou pas ce gouvernement. On ne sait pas. On verra ce que le Premier ministre est prêt à faire, dit encore Olivier Faure. Le PS qui insiste sur le fait qu'il peut mettre fin au bail de Le Cornu à Matignon, vous l'avez compris, à tout moment. Pour tenter de mettre la pression, je suis content parce que hier on l'a passé très vite ce sondage, pour tenter de mettre la pression sur le chef de gouvernement et de convaincre de reprendre les principales mesures de leur contre-budget, les socialistes ont sciemment rendu public mardi un sondage qui montre quoi ? Que leurs propositions sont plébiscitées par les Français. Selon l'enquête IFOP diffusée par le Parisien, 86% des personnes interrogées actuellement soutiennent l'instauration de la taxe Zuckmann, vous savez, de 2% sur le patrimoine des Français qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. En août, 79% des sondés se disent favorables à une réduction des aides publiques aux grandes entreprises. Les fameux 211 milliards par an, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Libé revient un petit peu dans l'histoire récente, c'est intéressant. En janvier, les socialistes s'étaient distingués du reste de la gauche en acceptant de négocier un accord de non-censure avec Bayrou. Ouais, à Nice, c'est tous les jours à la même heure. Estimant avoir obtenu des victoires, notamment un conclave sur les retraites qui était censé permettre de discuter de l'âge de départ, les socialistes avaient permis à Bayrou, merci Rainbow, de survivre aux motions de censure déposées contre lui, en ne les votant pas. Mal leur en a pris, les socialistes se sont fait un petit peu avoir. Au fil des semaines, le PS a fini par déplorer que les engagements de Matignon n'ont pas été respectés. Bayrou a bénéficié du doute, mais là non, ça ne sera pas le cas, dit un socialiste. On va demander beaucoup plus que la dernière fois. Le Cornu n'a pas le choix. S'il nous dit « allez vous faire voir », il tombe. Voilà. Les écologistes ont également rencontré le Cornu. Eux aussi l'ont trouvé assez flou. Les communistes attendent des gestes. Les insoumis, parce que là je parle de la gauche, je vais parler de socialistes. Sur 100% de gauche, 86% sont pour, évidemment. Dragon Lion n'a rien compris. C'est un sondage auprès de la population française. Alors tu peux critiquer le système des sondages, ils sont critiquables, mais c'est pas un sondage auprès des militants socialistes, c'est un sondage auprès des Français. T'as rien compris, bordel. Vous n'écoutez pas, hein. Ça dort au fond de la classe, là. C'est fou, ça. Les gars, il va falloir écouter, hein. Parce que là, au prochain contrôle, vous n'allez pas avoir la moyenne, hein. Donc, j'ai parlé des socialistes, des écologistes, des communistes, et les insoumis, alors, et LFI. Les insoumis de leur côté ont décidé de ne pas perdre leur temps du côté de la rue de Valois, de Varennes, pardon. Contactés au début de la semaine pour rencontrer le Premier ministre, les mélenchonistes tout simplement ont refusé l'invitation. Nous ne participons pas à sauver ce qu'il reste de la Macronie, a justifié Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI. Tous ceux qui tenteront de sauver Macron tomberont avec lui. LFI, comme le RN, ils veulent pas soutenir ce gouvernement, ils veulent de nouvelles élections. Ou législatives, ou présidentielles. Ils disent le truc est pourri, le truc est cramé, voilà, on ne soutiendra pas ce gouvernement, quelle que soit sa politique, voilà, il faut tout remettre à zéro. C'est la position de LFI et du RN, avec des attentes évidemment qui ne sont pas les mêmes. Non, la rue de Valois, je voulais dire, mais ça c'est le ministère de la Culture, Cyril. On dit la gauche comme s'ils étaient unis. Ben, en tout cas, pas moi. Effectivement, ce titre, il peut prêter à confusion. Aujourd'hui, socialistes et LFI ne sont pas d'accord sur grand-chose. Ni sur le fond, ni sur la stratégie, quoi. Salut Alphidia, merci pour ton message. Donc voilà un petit point rapide sur l'état des discussions entre la gauche, on va dire les socialistes, les écologistes, les communistes, pour être précis, tu as raison, et Sébastien Lecornu. Ce serait très intéressant. Moi, j'attends ça avec impatience, en vrai, de savoir. Merci Anis Ramdan. Merci Youyou. Ben, ce qui va se passer dans les prochains jours. Quel ministre va appeler Lecornu à ses côtés? Ça va donner déjà un indice sur la couleur de la politique qui va être menée. Est-ce qu'il y aura des hommes, des femmes de gauche, par exemple? Lesquels? Et ensuite, quel programme de gouvernement? Voilà. Et quel budget? Et là, on va voir si ce gouvernement Lecornu est un nouveau gouvernement Macron centre slash droit, ou un gouvernement qui va plus à droite, ou un gouvernement qui va plus à gauche. Bon, ça, on le verra dans les prochains jours. Voilà. Et justement, à ce propos, on va terminer avec le dernier sujet que j'ai appelé « Gouverner avec une coalition ». Hop, je vous mets la petite flèche où il faut. Hop, incroyable ce sommaire. Incroyable ce sommaire. Hop. À partir de lundi, il faudra que je note les TC aussi, les horaires. Comme ça, pour le podcast, les gens qui pourront écouter Servu de presse à partir de lundi tous les jours, vous aurez en plus les horaires de tout ça, pour aller directement au sujet qui vous intéresse. Coalition, qu'est-ce que c'est cet article? On est dans Le Monde, c'est un article qui est signé par qui? Par Anne Chemin, et qui se penche sur un sujet qui est essentiel, qui dit, aujourd'hui en France, par rapport à la situation politique qui est bloquée, parce que nous avons des exécutifs qui ne sont pas soutenus par des majorités à l'Assemblée, eh bien, tout le monde, tous les gens qui s'intéressent à ça, les constitutionnalistes, les professeurs de droit public, les observateurs avisés de la vie politique, disent, bah, les gars, c'est pas compliqué. Bah, faut faire des coalitions. Hein ? Il faut inventer une nouvelle façon de faire la politique en France. Il faut que les politiques se parlent, arrivent à dépasser leurs oppositions, et créent des coalitions comme plein de pays... européens et parfois voisins le font déjà dans le cadre de régimes assez différents du nôtre, il est vrai, régime plutôt parlementaire, alors que nous sommes dans un régime présidentialiste qui est celui de la 5e. Voilà. Contrairement à ce que croit écrit Anne Chemin, le monde politique français, un gouvernement de coalition, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment, c'est tous les jours, ouais, Alix, ne se contente pas d'écouter et de respecter ses opposants, il exige en amont un travail approfondi de compromis. C'est presque un gros mot en France, ça. Qui aboutit à une feuille de route très détaillée. C'est ce que font nos voisins allemands, par exemple. Avec beaucoup d'éléments parlementaires quand même, Yanis. Je suis d'accord. Alors, Yanis, je suis complètement d'accord avec toi. Hein, souvent, il y a des gens qui disent « Ah là là, mais en fait, la solution, c'est de changer de constitution. Allez, une 6e République, let's go !» tout va s'arranger. Bah non, c'est pas parce que tu changes la règle du jeu que le jeu, il n'est pas bordélique, quoi. Non, tu as raison, je pense que dans la 5e République, il y a des éléments... d'un régime parlementaire qui sont sous-exploités, sous-exposés, et qu'une autre pratique des institutions permettrait de mettre en avant, quoi. Mais on en reparlera. Lisons l'article d'Anne Chemin. Depuis les législatives de 2022, le terme coalition dans le monde politique est sur toutes les lèvres, hein, puisque ces élections ont consacré un parlement, une assemblée éclatée, hein, avec une absence de fait majoritaire. À l'été 2024, Lucie Castet, la candidate du NFP pour Matignon, s'était dite prête pour assurer la stabilité du pays à construire des coalitions. Cette rhétorique a été reprise par Michel Barnier, qui a été Premier ministre, par François Bayrou, qui a été Premier ministre. Qu'ils viennent de la droite ou de la gauche, ces partisans du Rassemblement affirment vouloir dialoguer avec leurs adversaires afin d'élargir l'assise de leur futur gouvernement. En même temps, ils n'ont pas le choix. Depuis les législatives de 2022 et encore plus depuis celle de 2024, la fameuse dissolution ratée du président Macron, la confortable majorité parlementaire qui avait accompagné depuis 1962 tous les gouvernements de la 5e s'est évanouie, c'est ce que je vous dis souvent. Le palais Bourbon est désormais divisé, donc c'est l'Assemblée nationale, hein, non plus en deux groupes comme il était jadis, gauche-droite, pour faire simple, mais en au moins trois, la gauche, le bloc central et la droite radicale. Ah, c'est marrant que Le Monde, que Anne Chemin dise la droite radicale. Le Monde, c'est un journal qui dit plus facilement extrême droite à propos du RN, mais Anne Chemin dit droite radicale. Ok. Bon, moi je dis extrême droite. Dans un hémicycle aussi fragmenté, nul ne peut envisager de gouverner seul en appliquant son programme. Il serait immédiatement sanctionné par une implacable motion de censure. C'est ce qu'on voit depuis plusieurs mois en France. À cette contrainte arithmétique s'est ajoutée en toile de fond une puissante aspiration politique. L'édition, ils comptent peut-être certains LR. Ah ouais, ils doivent compter les Ciotti, tout ça. Ah ouais, ok, t'as raison. Ouais, lumière, ça doit être pour ça, ouais. Ok. À cette contrainte arithmétique, donc les politiques n'ont pas tellement le choix, s'est ajoutée en toile de fond une puissante aspiration politique. L'édition 2025 du baromètre de la confiance politique du Centre de recherche politique de Sciences Po montre en effet que cette démarche d'ouverture suscite l'enthousiasme des Français. Hein ? Seuls 40% des Français se disent opposés au gouvernement de coalition, alors que près de 64% contestent les gouvernements minoritaires. Donc les Français sont plutôt OK. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, me demande Mentor. Penses-tu que de réfléchir à un nouveau moyen de gouverner serait une bonne chose, au contraire de venir parfaire le système déjà en place? Votez pour moi en 2027, pour l'exclamation 2027 dans le chat Twitch, et vous verrez que mon projet il est déjà prêt. Plus étonnant, ce souhait des Français que nous gouvernions désormais par coalition traverse aujourd'hui l'ensemble du spectre politique. Tous les électeurs d'Ensemble pour la République et du NFP y sont largement favorables. Y compris les répondants se déclarant de proches de la France insoumise, souvent considérés pourtant comme les plus radicaux. Ça, c'est intéressant. Même chez les électeurs de LFI, on dit c'est une bonne idée. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, même l'électorat de droite, en principe davantage favorable aux directions politiques fortes, ne s'oppose guère plus désormais au gouvernement de coalition. Pierre dit « Il serait temps d'arrêter d'attendre le sauveur qui règle tous les problèmes du pays. » Je suis tellement d'accord avec toi, Pierre. Si le mot « coalition » fait recette, en revanche, la chose est plus évanescente. Qu'est-ce qu'on appelle dans le monde politique français une coalition ? Hein ? Sous la cinquième, on ne l'a pas pratiqué. La promesse de ne jamais rompre le fil du dialogue avec les groupes parlementaires, disait Elisabeth Borne en 2022, des accords au cas par cas, dit en 2024 Lucie Castet. Voilà. Un engagement, c'est quoi la coalition ? D'écoute, de respect, de dialogue à l'égard de toutes les forces politiques, disait Michel Barnier. Et en fait, qu'est-ce que nous dit Anne Chemin ? Ben non, les gars, vous avez tout faux, c'est bien plus que ça. C'est l'intérêt de cet article. Ces discours empreints de civilité, de courtoisie, de bienveillance ont dû faire sourire les responsables politiques européens qui pratiquent, eux, depuis des décennies, dans leur régime parlementaire, l'art très sérieux de la coalition. Allemagne, Espagne, Belgique, bon, c'est souvent le bordel chez nos amis belges, mais on les aime bien, sur un plan politique, ou en Italie, où un accord de gouvernement ne consiste pas à promettre vaguement à ses opposants de les écouter et de mener à bien une réforme négociée au cas par cas, mais de supposer de discuter pendant des semaines, voire des mois, hein, pour aboutir à une liste d'engagements très détaillée. Négociée pendant un mois par 192 émissaires de la CDU en Allemagne et de la CSU et du SPD, donc les différents partis en Allemagne, le contrat de coalition du gouvernement dirigé par Friedrich Merz compte 146 pages. C'est pas, je vais vous écouter, les gars, ça va le faire, vous inquiétez pas. T'inquiète, tout va bien se passer. Les mecs, ils discutent pendant des semaines, pendant des mois. Et ils s'engagent, ils vont faire ça. Notamment la légalisation, la dépénalisation du cannabis à titre expérimental en Allemagne, par exemple. C'est un exemple. Ce qu'on fera en France aussi en 2027. Le texte répartit les portefeuilles ministériels entre les partis. Énumère les politiques publiques qui seront menées dans le domaine de la fiscalité, comme dans celui de la lutte contre l'immigration illégale. Une fois signé, ce contrat ne peut entrer en vigueur tant qu'il n'a pas été approuvé par les militants des formations politiques concernées. Vous voyez ? C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, comme le dit Lumia pour résumer, ils discutent avant de faire un gouvernement, contrairement en France où nous, on veut faire l'inverse. Les partis français seront-ils, selon le mot du politiste Florent Gougou, remplacer les échanges en coulisses, les ententes en catimini, hein ? Si la majorité absolue continue à déserter l'hémicycle, c'est-à-dire si les Français aux prochaines élections ne donnent pas une majorité absolue à un camp, ils ne pourront pas, ces partis, s'y soustraire. S'ils veulent éviter une instabilité gouvernementale chronique, il leur faudra bien faire l'apprentissage de l'art subtil de la coalition et renoncer à certaines des habitudes de l'ancien monde, la croyance dans la toute-puissance du président. Là, je pense qu'il faut arrêter ça. Le penchant pour les jeux de posture partisan, ça aussi, c'est un truc qui est extrêmement néfaste à notre pays. Et l'insatiable appétit pour les hommes providentiels, que vous dénoncez dans le chat depuis tout à l'heure. Arrêtons de croire que c'est un homme, une femme providentielle qui, élu en 2027, va résoudre comme par magie, d'un coup de baguette magique, comme Illuminati, là, les problèmes de notre pays. Hein, c'est très infantile de croire ça. C'est avoir une vision très infantile du jeu démocratique que de croire qu'une personne, voilà, comme le dit à l'instant Anis, c'est un mot. Pardon, juste. Attends, tu es où est-on? Ah, c'est Pauline, pardon. Pauline, l'homme providentiel, le syndrome de Gaulle dont tout le monde se revendique. Voilà. Et voilà. Joséphine. Pardon. Plutôt que Mimati. Ce qui d'ailleurs est une construction historique, parce qu'aujourd'hui tout le monde se réclame de De Gaulle, plus ou moins. Ah, De Gaulle. Espèce de souvenir mythique d'une France apaisée où tout le monde était d'accord, où il y avait zéro problème. En fait, évidemment, c'est une construction intellectuelle. Rappelons que De Gaulle a été détesté par les Français. Évidemment, le De Gaulle libérateur, le De Gaulle résistant, le De Gaulle du 18 juin, le De Gaulle du début de la 5e, c'est un président qui est aimé. Mais le De Gaulle de la fin de son mandat, le De Gaulle de 68, le De Gaulle de 69, le De Gaulle de Baden-Baden, c'est un De Gaulle qui est détesté par une grande partie des Français, qui est injurié, qui est insulté. Donc, déjà, le De Gaulle, la figure tutélaire qui règle les problèmes des Français, c'est une construction intellectuelle du « c'était mieux avant », quoi. C'est vrai d'ailleurs, t'as raison Yanis. Mais De Gaulle, lui, quand il a senti qu'il était plus populaire, il s'est retiré. Ouais. Référendum 69. Hein, il pose la question aux Français sur plusieurs sujets, notamment la réforme du Sénat, je crois. Et les Français répondent non, votent non à son référendum. Et De Gaulle dit « Ah mais c'est comme ça, je m'en vais. » En vrai, ça avait de la gueule. Alors c'est à la fois un truc d'ego. « Ah bon, vous avez dit non à mon référendum. » Eh bien, je me barre. Donc, il y a un truc d'ego, mais il y a aussi un truc de « Ok, vous voulez pas de moi ? Pas de problème. » C'est pas mal. Voilà. Bon, nous, notre projet en 2027, et on va terminer là-dessus, c'est la fin de la revue de presse. Pop, pop. En tout cas, après, je passe mon après-midi au rendez-vous. Pff, j'aime pas ça. Alors, attends, hop. Comment je vous enlève la cam ? Voilà. Voilà. L'après-midi au rendez-vous. Ce soir un peu de live, un peu de gaming. Hein. On essaiera de faire un petit peu de Valo. À moins qu'on fasse du. Comment c'est déjà le nouveau jeu auquel je joue là. Warzone. Mais peut-être du Valo peut-être ce soir. Peut-être qu'on tente le Silver ce soir. Et donc le projet pour 2027 ici c'est lequel ? Point d'exclamation 2027 dans le chat Twitch. Oh, il y a un sondage intéressant, je n'avais pas vu. Croyez-vous en l'homme-femme providentiel ? Non, 84%. Oui, 6%, je ne sais pas, 10%. Donc, point d'exclamation 2027 dans le chat. Je suis flemmard, j'attends que quelqu'un le fasse. Et je vais ouvrir le projet. La revue de presse, Lucas, c'est entre 9h et midi, en gros. Parfois 9h30, tu vois. En gros. Alors, le projet. Alors, on a essayé pendant le The Event de résumer notre projet présidentiel pour 2027. Alors pardon, c'est uniquement dans... je crois qu'on peut créer aussi des bots sur TikTok, je vais essayer de m'en occuper. Mais je vous le lis. Au The Event, les gens disaient « Mais tu veux pas résumer un petit peu ta proposition pour 2027 ?» Alors résumer, c'est dangereux en politique, parce que du coup, c'est forcément un peu limité, mais on a essayé de le résumer en l'écrivant ainsi. Le projet pour 2027. Allez, sérieusement, chercher les 500 signatures. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va appeler la communauté, vous, à aller voir vos élus, vos maires, y compris dans les petites communes, puisque pour pouvoir se présenter à la présidentielle, il faut 500 signatures. On va demander à la communauté d'aller voir leurs maires, leurs élus, avec un petit dossier qu'on aura préparé ensemble. Et puis, en leur disant, bah voilà, il faut donner votre signature à Samuel, parce qu'on veut faire un truc ensemble. 500 signatures. Ensuite, co-construire ensemble un programme en live sur Twitch et sur TikTok aussi. Tous les matins, on parle de l'actualité. On va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on dit, ok, ce matin, on a parlé des retraites. Ok, qu'est-ce qu'on ferait, nous ? Voilà, qu'est-ce que vous proposez pour les retraites ? Pour sauver le système de retraite par répartition ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Ce matin, on parle de la sécurité en France ? Des problèmes de sécurité dans certains quartiers liés au trafic de drogue ? Ok, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des gros lives comme ça et on échange et au final on estime que la commu émane une proposition, une idée, et on vote, on fait des sondages et on valide ou pas cette proposition et on essaie d'affiner ça. Voilà, pendant plusieurs mois comme ça on construit un programme qui ne sera pas le programme de Samuel Etienne, qui ne sera pas le programme des Français, qui sera le programme de la communauté. Vient qui veut. Évidemment, certains dans la communauté ne se retrouveront pas dans les propositions puisque vous serez plus ou moins majoritaire ou minoritaire selon les sujets. Mais ce sera un exercice de démocratie directe. Voilà. Ensuite, on propose ce programme aux Français. Ton chat sera déchaîné. C'est ça qu'on aime. On propose ce programme aux Français au premier tour. On passe au deuxième tour. Contre qui, je sais pas. On gagne le deuxième tour, évidemment. On va à l'Élysée, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'évidemment, je ne serai pas appuyé, accompagné par un parti politique. À moins que je crée mon parti comme Emmanuel Macron avait créé son parti. Mais bon, à ce jour, je n'ai pas de parti. Donc il y a de fortes chances que, dans la foulée législative, amène à l'Assemblée des députés qui ne sont pas forcément de mon parti à supposer que j'en crée un, mais qui seront des partis existants aujourd'hui. LFI, PS, écologistes, LR, RN, etc., quoi. Tu penses dépasser les 1%? Non, je pense être élu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend notre programme, celui qu'on a développé ensemble, celui pour lequel on a été élu, et on dit au Parlement, les gars, voilà le programme qui m'a fait élire. Ok? Alors, on y va? On vote la réforme ou pas? Donc, d'abord, on passe par le Parlement, pour respecter la légitimité du Parlement. Rappelons que ces gens ont été élus aussi, donc ils ont une légitimité. Donc je leur dis... les gars, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en œuvre les projets de loi issus de ce programme présidentiel? Alors, ça vote pas. Et si ça vote pas, comme je me serais quand même engagé sur ce programme, eh bien, tous les ans, j'organiserai un grand référendum annuel qui posera 5 à 6 questions aux Français sur tous ces sujets essentiels. Et ce sera aux Français de trancher sur ces mesures. Voilà. En décrétant que la démocratie, c'est pas une fois tous les 5 ans. Il faut interroger les Français plus régulièrement et leur demander de donner une légitimité à ces réformes. Et la majorité parlementaire, je viens de l'expliquer. S'ils veulent mettre en œuvre les propositions du programme, je passerai d'abord par la voie parlementaire. Et s'ils ne le font pas, si on n'arrive pas à créer cette coalition qu'on vient d'évoquer dans l'article, eh bien ce sera aux Français de décider de l'application ou pas de ces réformes. Voilà. C'est tout simple. Pourquoi pas tous les ans et pas tous les 6 mois? Parce qu'il faut trouver un rythme, le bon rythme. Les Français, ils n'ont pas que ça à foutre non plus de se retrouver tous les dimanches dans leur bureau de vote, quoi. Il faut que ce soit organisable. Il faut que ça ait un certain coût. Les Français, ils veulent bien voter de temps en temps, mais ils n'ont pas que ça à foutre non plus, quoi. Voilà. Et donc on sera. Et moi je serai un autre président. Je serai pas un président comme la 5e a pu en avoir d'autres avant, quoi. Si tu es élu sans parti, comment penses-tu nommer tes ministres? Alors, si la question est constitutionnellement, petit Reynaud, en tant que président, j'ai le pouvoir de nommer les ministres que je veux. C'est un pouvoir discrétionnaire du président. Après, je pense que ta question, elle est autre. Elle est dans quelle couleur politique je vais les chercher? Où je vais les chercher? Dans quel parti? On en parlera, mais ça, c'est, pour le coup, c'est pas le plus simple. J'essaierai de trouver des gens qui seront compatibles avec ce projet. Voilà. Bon, allez, je vous abandonne parce que je vais passer l'après-midi à faire ce que j'aime pas. C'est-à-dire que je vais passer mon après-midi en rendez-vous, en Teams, en Zoom, en réunion pour des trucs sympas en vrai, pour préparer de nouveaux projets pour mes plateformes, voilà, notamment pour Twitch. Et je vous retrouve ce soir, je l'espère, sur Twitch. Ça existe encore Zoom? Je sais pas, je clique sur les liens. J'y connais rien. Sur Twitch, ce soir, pour du Valo, je pense. Silver. Et demain matin pour la revue de presse. Puisque la revue de presse est tous les matins. Voilà. C'est l'engagement. C'est un premier engagement. demain matin, et à partir de lundi, ce sera en podcast. Amis de TikTok, merci. Ces lives sur TikTok, c'est assez récent. Donc, il y a une modération à trouver, il y a un cadre à expliciter. On a encore à la marge, ils sont très minoritaires, des gens qui viennent sur TikTok et sur cette chaîne et qui ne connaissent pas ce qu'on essaye de faire et qui sont un peu en mode foufou. Ils sont minoritaires, mais on les voit beaucoup, ils sont très bruyants. Donc, on essaie de faire de l'éducation par rapport à ça. Donc, parfois, le chat peut être un peu agité. Mais c'est oublié que 99% des gens qui suivent ce live sur TikTok et des contributeurs, eux... le fond est avec beaucoup de sérieux et de rigueur, quoi. Donc merci à vous. Je vous quitte puisque je vais faire un raid sur Twitch et je vous dis à demain matin pour la revue de presse. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitch, notamment pour le gaming. Au revoir, bande de beaux gosses. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À demain matin. Ciao ciao. Vous êtes top, hein. Vous étiez quand même plus de 500, hein, tout le temps. Hein. C'est ouf. Bisous les amis. À demain matin. Arrêtez le live. Voilà. Amis de Twitch, à nous, vous êtes super nombreux, on va en profiter pour faire un raid. Ouais. Alors, TikTok, certains disent, ouais, pourquoi tu l'as sur TikTok et tout, c'est le bordel et tout. Eh les gars, ici aussi ça a été le bordel, hein. Et c'est souvent encore le bordel, sauf qu'on a mis en place une modération, on a expliqué le projet, on a expliqué de sensibiliser les gens depuis des années, depuis 5 ans. Les modérateurs sont là, ils font un travail incroyable sur TikTok, on est en train de mettre ça en place. Donc il y a 2-3 fous sur TikTok, mais ils sont très minoritaires. Alors qui on raid là? Bon, les amis, Bailan et Nico, je les raid quasiment tous les jours. Hein, c'est incroyable ce qu'ils font. Moi, je les soutiens. Qui on a là encore? Ah, et... Ouais. 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 Ah ouais. Il y a du valo, il y a tout le matin. Ah, il y a de l'art. C'est bien là aussi.
Relation.
Je regarde tout ça. Ouais, pourquoi pas le Japon, ouais. Ouais, ouais. Ouais, il y a aussi Jardistream qu'on adore, la petite potière qu'on adore, ouais, mais tout ça c'est bien. Hein. Comment ça, citron violet, c'est un violet? Attends, citron violet, c'est un violet? Il est où l'ami citron violet? C'est au Japon. On est sur un Français qui stream IRL. Au Japon, il est en violet? Bon, attendez. Bon, c'est une bonne idée en vrai. L'ami citron violet, c'est un Français qui stream IRL au Japon, qui vous fait découvrir le Japon, c'est juste incroyable. Et c'est un super gars. Et on me dit qu'il a les cheveux en violet. Bon, on fait ça. Bon, allez voir ça. Ode à la joie. Attends, ode à la joie. Attends, je suis ode à la joie ou pas? Oui, je crois que oui. Ah, stream IRL aussi. IRL Bayonne. Et je connais pas. Allez. 95 viewers, on va donner de la force. C'est bien aussi de mettre en avant des chaînes plus petites. Hein, plus petites par le nombre de viewers et pas par la qualité. Parfois, il y a des trucs de fou. Et là, on est à Bayonne. IRL Bayonne. Ode à la joie, c'est pas une très bonne idée. Je sais pas qui m'a proposé ça, c'est une très bonne idée. Allez, on va à Bayonne. On retournera au Japon une autre fois. Ode. En plus, très beau nom de chaîne. Ode à la joie. Oh, ils sont 112. Ça monte. Voilà, c'est parti. Il fait beau, il y a du soleil. On va en stream IRL à Bayonne. Let's go. Ode à la joie. Je charge le raid. On se retrouve ce soir pour du Valo. Je ne sais pas encore à quelle heure. Je passe un petit peu de temps avec la famille. Et puis, je suis très content de notre petit sommaire, là. Hein ? Ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Allez, à ce soir. Et merci encore pour ce matin. C'était topissime. On passe de bons moments ensemble. C'est l'essentiel. À ce soir, bande de beaux gosses.